Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com. Tigri est un chaton heureux, mais sa vie pourrait être changée à jamais. Aidez-nous à protéger les chatons du monde entier et contribuez volontairement au financement de vos podcasts favoris.
Ce message a été retenu et payé par Radio Talbot, agent officiel des protecteurs des minous.
Excusez-moi, je suis allergique.
Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Comment ça va tout le monde? Ici Denis Talbot. Bienvenue à cette autre page de ma vie, mission 480. Hier, on a fait un playtest d'un jeu qui s'appelle Homefront. Je vous dis d'entrée de jeu, ne dépensez pas d'argent pour ce titre. C'est pas très bon. The Revolution, malheureusement.
C'est la suite de celle-là, là, ouais, comme les Coréens, ouais, les Coréens attaquaient.
C'est exactement. Là, okay. On était dans la ville de Philadelphie, qui est assiégée depuis 4 ans. Et les États-Unis, ça va pas bien. Et nous, on est là, bien sûr. On fait partie de la résistance pour éventuellement essayer de libérer tout ça. Le potentiel était intéressant, mais malheureusement, ce jeu-là a beaucoup de problèmes au niveau de du frame rate en français. C'est quoi donc? C'est le nombre d'images par seconde qui ne sont vraiment pas au rendez-vous. Benoît Mercier est là. Bonsoir. Également. Comment allez-vous, M. Mercier?
Ça va bien, vous
content de vous voir. Ouais,
moi
donc,
aussi, content de vous voir.
Yann, on avait joué, te souviens-tu de la scène quand on est dans le bus?
Au début, avec la famille qui se fait tirer devant la petite fille, là, ouais, je me souviens de ça.
C'était très. Moi, j'étais un petit gars, je pense.
Bon, ça se peut.
Parce que toi, t'es une petite fille, hein? On voit bien,
ouais,
ce qu'on veut voir.
Ouais, mais il me semble que c'était une petite fille, puis les parents pleuraient. Là,
ouais,
mais...
en tout cas, regarde.
Peu importe,
c'était émouvant. C'était un jeu qui n'était pas parfait, mais ça promettait énormément. Quand THQ a été vendu à Montréal, ce jeu-là a été vendu à Lancan, finalement. Ça a été racheté par la compagnie.
On dit que c'est taux de rafraîchissement.
Taux de rafraîchissement, oh, exactement.
Merci beaucoup à Québec.
C'est super cool, merci beaucoup. C'est Dambuster Studios qui a acheté ce jeu-là en collaboration avec Deep Silver. Et honnêtement, c'est très décevant. Il y a des belles affaires là-dedans. On voit qu'il y a une bonne base. À un moment donné, tu veux améliorer tes armes sur le fly, tu peux le faire. Mais ce qui vient tuer le jeu, c'est le taux de rafraîchissement, justement, et la latence également.
Oh, on dit que c'était aussi très, très classique. Comme ce jeu-là a été, ouais, fait des centaines de fois. Non?
Ouais, y a-tu un mode multijoueur ou c'est vraiment,
oui,
seulement solo?
En multi,
okay, mode du solo, ouais, multijoueur, okay.
En multi, c'est difficile de jouer, c'est difficile d'avoir du plaisir parce que, justement, c'est tellement laggy, là, c'est incroyable.
Pourtant.
Et écoute, moi, c'était un 4-5.
Il y a tellement de latence.
Ouais, excuse-moi, merci Yann.
Il y a le petit Larousse puis il y a le petit Yann. Après.
Le petit Yann, exactement.
Il y en a un qui est plus gossant que l'autre.
Et comme le petit Larousse, il sème à tout vent.
C'est ça. Je suis comme antidote vivant.
Mon Dieu, t'es plus comme Clippy, moi, je dirais.
Je suis Google Translate, plus qu'antidote.
Ouais, Google Translate, ça tirait bien, ça. Fait que donc, gardez votre argent, mesdames, messieurs, achetez pas ça. Attendez qu'il soit en spécial. C'est pas un jeu qui.
Dans 2 mois, il va être gratuit sur le PlayStation Plus.
Probablement. Puis j'espère qu'ils vont juste faire un correctif, mais je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent améliorer quelque chose qui est comme ça.
Ça sent le micro-ondes, hein, ça sent le réchauffer un peu.
Écoute, la prémisse est intéressante. Ouais. C'est rare, absolument. On joue tout le temps les Américains, mm-hmm, qui vont aider dans un conflit ou des missions. T'sais. Là, c'est le contraire.
C'est ça, on s'est fait envahir.
Les
autres, ils tombent, on tombe pas mal.
Il y a des fortes chances que le Canada ne résiste pas.
Ouais. En tout cas,
il avait utilisé un EMP dans le premier. Là.
Il avait tout arrêté.
Ouais, ça avait tout comme un choc
électromagnétique.
Laisse-moi le temps.
Ton update, ta mise à jour n'a pas été faite.
Non, mais on niaise avec ça. Puis juste parenthèse comme ça, je me souviens quand j'ai commencé à faire la radio, j'avais beaucoup de misère. Tu sais, c'était très, je faisais, mm-hmm, beaucoup de Franglish, ce que j'appelle. Puis j'essayais de corriger mes enfants avec la même chose. Puis ils vont dans une école bilingue. Puis c'était la même chose au début quand j'ai commencé Monsieur Net, il y a plusieurs années. Denis disait, fais attention, là, tel mot. C'est que là, OK, je faisais des recherches dans mes critiques pour utiliser les bons termes. Puis pour les rares fois que j'allume la radio, que ce soit, c'est quand même F, que ce soit Énergie, ouais. ou peu importe les autres postes, même 98.5, qui est une radio parlée, le nombre d'animateurs et de commentateurs qui sont là, qui font du Franglish, là, même les surtout les humoristes qui ont des émissions, là, c'est incroyable.
Sans
là.
Faire une obsession, j'essaie de tout le temps avoir le mot français. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis imposé il y a une couple d'années de ça. Puis finalement, tu te rends compte qu'on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moindrement que tu y prends connaissance de ça, ça devient vraiment une obsession, je te dirais. Hein? Si personne n'est parfait, mais au moins, si tu fais, t'es conscient du processus et tu essaies de t'améliorer, ça peut juste...
Attends un petit peu, quelque chose qui m'a... Maurice Avoir, qui est sur le chat, je pense son but dans la vie, lui, c'est être désagréable.
Ah oui, je pense que...
Il y en a des mêmes sur
Internet. Attends, tu peux juste régler une affaire. Ouais. Maurice Avoir, hier, dans tous les commentaires, t'es le seul... qui a dit ouvertement à Myriam que tu étais pour aller faire un dislike, un pouce par en bas sur son vidéo qu'elle a faite en anglais. Par pure méchanceté. Puis là, tu viens de dire, je vais l'acheter pareil, Denis. Bien, Maurice Avoir, achète-le. C'est tout ce que tu mérites. Achète-le. Et pour venir au cas de Myriam, juste une petite parenthèse, parce que j'ai lu le chat tantôt. Myriam, là, elle n'est pas parfaite en anglais. Elle n'est pas parfaite en animation. Écoute, c'est une fille qui a du vouloir, c'est une fille qui a beaucoup de ténacité, c'est une fille qui fonce puis qui essaye des affaires. De prendre un pseudonyme, de se cacher derrière un pseudonyme pour bitcher le monde, c'est facile. Elle assigne tout ce qu'elle fait. Je peux-tu te poser la même question? Est-ce que tu fais la même chose? Pas sûr. Fait que calme-toi, mon vieux, sinon tu peux aller chatter ailleurs. Parce que si tu es ici pour pourrir l'ambiance, j'accepterai pas ça, puis les modos le savent. Fait que attention à toi, mon tipette. C'était tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bonne soirée. Alors, les gars!
Hey!
Hein?
Hey.
Non, mais je t'ai carré.
Non, non, mais on se comprend, là.
Je t'ai carré.
On se comprend.
Tu sais, regarde, écoute, la fille, elle travaille fort, elle fait toutes sortes d'affaires, puis...
Je vais déliter mon compte troll, là.
Yann est en train de supprimer son compte, là. Non, mais comme tu l'as dit, moi, ce que j'admire chez Myriam, c'est qu'elle arrête jamais.
Elle
essaie tout le temps plein d'affaires. Même
puis
si
elle fonce.
Même si elle est moins bonne dans quelque chose, elle essaie, elle pousse. Puis j'y ai déjà dit, c'est ce que j'admire chez toi. C'est que tu as une ténacité, t'as pas peur de foncer. Puis, je suis content que tu fasses cette mise à jour-là. Parce qu'à un moment donné, c'est bien drôle les jokes, là, mais il y a des jokes
ça,
qui sont.
Ça, c'est pas des jokes, c'était méchant,
non,
tout
non,
simplement.
C'est juste pour faire
juste
le troll.
Faire le troll, puis faire chier. Puis ça, là, écoute, moi, quelqu'un qui travaille fort, comme elle le fait. Ouais. J'ai du respect pour ça. Ouais. Parce que critiquer assis en arrière de son clavier avec sa camisole pleine de taches, là, facile.
C'est très facile.
C'est facile. En tout cas, elle assigne ses affaires, puis elle a le courage au moins de ses actions, puis elle travaille fort. Alors, Myriam, lâche pas, puis laisse faire les trolls. Et voilà, c'est réglé. Benoît, parle-moi un petit peu d'un truc qui... Moi, je suis depuis des années, comme Yann d'ailleurs, probablement à la série Star Trek.
Ben oui.
Et puis là,
je me souviens de l'avoir écouté en 66 quand ça a commencé.
Yann est un immortel.
C'est ça. Mais est-ce que tu as déjà réécouté ces séries-là, Yann?
Ben, ça jouait à Space des fois, le jour où quand j'étais à l'école, ça rejouait. Je trouve que c'est plus facile de Il y en a certaines qui passent mieux que d'autres. Mm-hmm. Je me souviens d'avoir écouté un épisode de Star Trek The Next Generation, puis d'avoir ri tout le long en voulant dire c'était donc bien mauvais. C'est du monde. Tu sais, c'était des aliens retardés, là. Make us go fast. Plus, je me dis, comment les autres se sont fait pour ramasser
on est porté à un peu, je te dis, embellir Next Gen, le souvenir qu'on a de Next Generation.
Ouais. Mais moi,
pour vrai,
les
premières saisons,
c'était mauvais.
Disons que c'était un peu, comment je pourrais dire ça, c'était pas aussi bon que vers la fin. Ils ont trouvé leur rythme
vers
après.
La fin, je pense que ça, puis je vais pas te couper ta nouvelle, mais ça n'a pas vraiment un rapport avec Star Trek, c'est qu'on est correct, pas de spoiler. Ça, je pense que c'est venu pas mal avec, dans le temps des X-Files et ainsi de suite, où on avait, tu sais, le Monster of the Week, puis t'avais l'histoire de la saison. Mm-hmm. Tu sais, X-Files, c'était une des premières séries à faire ça. C'est que Star Trek, il y avait ça aussi. Ah, les Borg, ils étaient là. Les Borg revenaient, puis ça continuait ce qui s'était passé avant. Puis quand ils ont commencé à faire des cliffhangers avec les season finales, les fins de saison, ils ont fait des... Je sais quoi, cliffhanger en français pour
les... Il
n'y
a pas vraiment d'équivalent.
Cliffhanger, c'est garder...
un point de suspense, mais je ne sais pas comment dire.
Garder les gens en haleine et garder...
Garder en haleine, mais tu sais, genre un deux... Tu sais, mettons, une émission, mais en deux parties. C'est que t'avais la partie, mettons, épisode 22, saison 5, puis ça finissait épisode 1, saison 6. Je trouve que quand ils ont commencé à faire ça, c'est là que ça a pris vraiment son envol.
Les premières
là.
Saisons de Next Gen aussi, ce qui arrivait, c'est qu'on sortait directement de Star Trek. Ben, pas directement, mais il y a eu Star Trek, la série originale, dans les années 60.
Tout
puis après, il y a eu un gros trou. Puis après, il y a eu Star Trek The Next Generation. Fait que tu sens l'influence de la série originelle dans la nouvelle série, finalement, qui est apparue deux décennies plus tard.
Quand tu regardes l'original, je me suis payé ça un trip à un moment donné. Tu te rends compte qu'il y a encore des sujets qui sont très d'actualité. Ah, le racisme, l'exploitation.
Il y a un épisode dans Star Trek The Next Generation, que, parce que moi, je me suis retapé toute Next Generation est disponible sur Netflix Canada. Ouais. Ah, okay. Il y a un épisode où Riker, qui est le second en commande sur l'entreprise, il va sur une planète, il tombe amoureux d'une espèce qui est ni femelle ni mâle. T'as-tu vu cet épisode-là?
Oui, je me souviens.
Mais moi, j'avais jamais vu
cet épisode-là. C'est contre la loi pour eux autres de se procréer avec d'autres...
Et non seulement ça, ils n'ont pas le droit de s'identifier à un genre en particulier. Ouais. Et quand ils s'identifient à un genre, ils sont envoyés dans des centres de reconditionnement.
Oui,
vraiment intense. Puis je me souvenais pas du tout d'avoir vu cet épisode-là. Puis tu te rends compte à quel point c'est d'actuel aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le sud des États-Unis, avec les fameuses salles de bain qu'il faut pas... Ils font des folies avec ça. Mais tout ça pour dire, ça fait 11 ans que Star Trek n'est pas au petit écran. Et ça, on s'en ennuie. La dernière, c'était Star Trek Enterprise, qui était... Bon,
j'ai même pas fini, celle-là. Pas je la vais meilleure. L'avouer. Là, j'ai pas fini. C'était Archer, hein? Captain Archer.
Ça se passait avant la série originelle de Star Trek. Et là aussi, il va y avoir une prochaine série qui va apparaître sur le petit écran en 2017 du côté de CBS. Le premier épisode va être sur CBS. Et après, ça va faire le saut sur CBS All Access, qui est un service de flux en continu qui appartient à la...
$6 par mois.
Quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si c'est disponible au Canada. Je ne pense pas. Mais il va sûrement avoir un équivalent ici.
Il y a quelqu'un qui va le prendre, que ce soit CTV. Exactement.
Ou
ABC. Ou
quelque chose d'autre.
Show Me ou Vidéotron.ca.
Ouais, c'est ça, itunes.vidéotron.com.
Tu veux-tu qu'on regarde un peu ce que
j'aimerais
ça propose?
J'aimerais ça, parce que je vais faire un petit pont. Là, on a eu droit, parce qu'on n'a rien vu de la série encore qui s'en vient, un premier aperçu et Denis va nous le montrer.
Et voilà.
CBS presents A New Adventure.
Yann a fait une observation. New crew, ça veut dire nouvel équipage, mais au pluriel.
Au pluriel. C'est qu'il
y a nouveau, plus... y a-t-il plus qu'un équipage?
Je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi qu'il était peut-être lancé comme deux séries. Une série comme sur CBS et une, comme tu disais, qui était pour aller sur All Access, qui était pour être peut-être en plus petit format. On
c'est
le sait pas.
Possible
mais
pour
New Crew, c'est quoi? C'est qu'on aurait une semaine sur un vaisseau, une semaine sur un autre. On le sait pas.
On a aucun détail par rapport à la série, mis à part qu'on connaît le showrunner. Ça, c'est le producteur. En fait, producteur n'est pas un bon mot pour traduire showrunner.
Non, parce qu'aux États-Unis, au producteur, c'est quelqu'un qui produit le show. Puis ici, un producteur, c'est quelqu'un qui donne de l'argent.
Exactement.
Parles-tu du diffuseur à ce moment-là? Showrunner,
c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe du bon fonctionnement d'une émission. C'est comme un producteur, mais il y a d'autres fonctions. Il va écrire, il va s'assurer...
Que tout est, mettons, uniforme.
Uniforme, qualité de l'univers. Okay. C'est
comme
ça.
Exemple facile, chez quelqu'un dans l'univers de Marvel, chez Disney, il y a quelqu'un qui est en charge seulement de la continuité.
Okay.
Il s'assure que tout fit et qu'il n'y a pas de contradiction. C'est un peu ça. Exemple comme Chris Carter pour X-Files, c'est un showrunner. Il écrit certains épisodes, il en réalise une coupe. Mais c'est lui, par exemple, que les écrivains vont voir pour être sûr que ce qu'ils font va pas, ça sort pas de sa vision de la série X-Files que lui a en long terme.
C'est un job très exigeant. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Showrunners, qui est sorti en 2014. Allez, jetez un coup d'œil à ce documentaire-là. Ça donne une idée, c'est quoi justement les conditions pour faire ce type de travail-là. C'est extrêmement demandant. On sait que c'est Brian Fuller qui va être le producteur de la nouvelle série de Star Trek. Et c'est un fan, donc à la base, c'est entre bonnes mains. Il y avait une rumeur que ça allait se passer en Star Trek Undiscovered Country et The Next Gen, donc l'espèce de trou entre le dernier film de la première série.
Il y a comme 50 ans ou 40 ans.
Il y a 70 ans à peu près. Donc il y a une espèce de 70 ans ici qui n'est pas exploité. Moi, ce que je vois avec le visuel, ça me confirme un peu ça, parce que le symbole ressemble beaucoup au symbole de l'époque,
original.
Où ça semble être un peu dans la même période. Il est juste coupé. Et là, ce que un de mes amis qui s'appelle Eric Hébert m'a fait remarquer, c'est qu'on dit nouvel équipage, nouveau vilain, nouveau monde, tout ça, mais on dit pas nouveau vaisseau. Fait que moi, d'après moi, ça va impliquer l'Enterprise.
Mais tu penses-tu que ça pourrait être dans, dans l'univers de reboot qu'on retrouve au cinéma?
J'ai l'impression que, rendu là,
parce qu'on s'entend qu'avec Vulcan qui a explosé, ouais, ça a tout changé, là, ouais, un peu, tu sais, comme le futur, si tu veux, il y aurait moyen
d'exploiter un nouvel univers de Star Trek, une nouvelle ligne du temps. C'est possible, j'en ai aucune idée. Moi, ma préférence personnelle, c'est que ça se passe après Voyager, qui est le dernier dans la continuité de Next Generation, juste pour voir la continuité de cet univers-là qu'on a consommé pendant plusieurs années. Si c'est avant, on va le prendre. Écoute, ça fait 11 ans que Star Trek est plus à la télévision.
Ouais, ouais.
Mais tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est ça. Et le fait que la série va débuter, commencer son tournage à Toronto. Donc, ça va être à 8 heures de route. Peut-être qu'on va pouvoir aller jeter un coup d'œil.
On va envoyer un drone.
Un drone, oui. Il faut qu'il y ait une maudite bonne batterie, par exemple. Je vous avertis tout de suite. Mais c'est ça.
J'aurais pensé Vancouver, comme la part des séries.
Non, c'est Toronto, finalement.
On est bon, puis on coûte pas cher.
Ben, il semblerait-il que le taux de change est avantageux pour eux. Mais en tout cas, c'est le seul aperçu qu'on a eu à date de la série. Ferme son micro. Oh, c'est l'espèce d'aperçu de la série qu'on vient de voir là.
Intéressant. Donc, ça sort quand, ça? En 2017,
on n'a pas de date exacte. En début 2017. Okay. Premier épisode sur CBS, deuxième épisode avec le reste sur CBS All Access.
Très nice. Ouais. Très, très nice. Oui. Donc, parlons un peu de M. Jason Statham, cet acteur qui joue tout le temps les badass, un maître de Kung Fu, ex-champion de natation. Il a même fait les Olympiques, cet homme. Il a été approché par les gens d'LG pour faire cette publicité, mesdames, messieurs, et ça vaut le coup d'œil. Regardez bien ça. Watch me now.
Prépare-toi à jouer avec le LG G5, le premier téléphone conçu pour t'amuser.
Hein? Pas pire, à vous.
Mais ça me dit pas plus c'est quoi le produit.
C'est un téléphone dans lequel on peut greffer des modules de caméra, toutes sortes d'affaires. Okay. Beau téléphone. Ça a dû coûter un bras à la compagnie LG pour faire ça, mais quand même, le résultat est intéressant. Pour qu'ils acceptent de jouer ça, ils ont dû mettre la main dans leur poche.
Oh oui.
Jason Statham.
C'est comme rendu la nouvelle gamique, hein, juste avec les nouveaux free-to-play pay-to-win.
On met un acteur.
C'est quoi, la dernière, c'était Mariah Carey. Ça, je l'ai trouvé drôle en maudit.
La toune est bonne. Si vous êtes capable de trouver qui chante ça, j'aime bien cette toune-là. En passant.
C'est Shazam. Non, c'est Polka quelque chose. Là.
Polka quelque chose.
Non, mais en tout cas, je me souviens, mais ça me dit quoi, là,
cette toune-là. On va checker ça. Merci beaucoup, monsieur, de cette précision. Polka quelque chose. Merci. Parle-moi un peu de Dota 2. Qu'est-ce qui arrive avec ça, ton jeu favori auquel je te vois jouer régulièrement? Je te vois. Je n'ai pas le temps d'y aller, Denis. Je suis bien occupé.
Je n'ai eu pour mon argent avec ce jeu-là, ben, c'est sûr. Écoutez, c'est le temps de l'international qui s'en vient bientôt. C'est le grand tournoi de Dota 2 où, que l'année passée, il y a un Earthshaker, c'est un personnage qui a fait un Echo Slam qui valait 6 millions de dollars. C'était la grosse joke. Ils ont même fait une vidéo sur YouTube qui était drôle, qui est tous les commentateurs avec les voix différentes, que ce soit russes, partout dans le monde, qui calaient comme ce jeu-là. Mais c'est un jeu quand même qui leur a valu. C'est une des plus grosses bourses qu'ils ont dans le e-sport parce que Valve a vraiment les reins solides pour
voir
comment. C'est énorme. Il y en a plusieurs. C'est que là, ce qui arrive, c'est que tu as le Battle Pass que Dota 2 vend parce que c'est un free-to-play Dota 2. Et contrairement à League of Legends, en Dota 2, tu as accès tout de suite à tous les héros. Tout ce que tu achètes, c'est du cosmétique seulement.
Donc, c'est quoi ça, le Battle Pass? Là,
le Battle Pass qu'on a, c'est ce qui arrive, c'est quand on l'achète, qui coûte 9,99$, je pense que c'est 11$ canadien. Il vient avec des items que je vais vous nommer, mais il y a 25% de ce qu'on achète va dans la bourse du tournoi. Comme là, on est déjà rendu, je pense, à presque 6 millions.
Wow.
L'année passée, ça a monté jusqu'à 18. Et là, on peut même bider. C'est ce qui arrive avec le Battle Pass, c'est que ça nous donne plein d'items. Ça nous donne, mettons, un nouveau courrier. Ça, c'est la personne la créature qui nous amène nos items dans le jeu. Une nouvelle carte. des trésors, ça veut dire de nouvelles habilités pour des nouveaux costumes pour nos héros. Et ce qui est cool, c'est que ça nous donne aussi des quêtes à chaque jour ou dépendant. Et si on finit les quêtes, ça nous donne des points. Et là, on peut débloquer d'autres costumes, d'autres surprises, d'autres cadeaux. Et on monte de niveau. Et là, ce qui est vraiment différent cette année comparativement à d'autres, puis ça, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est que tu peux jouer toujours juste pour le fun à Dota 2. Tu sais, c'est pas rank, c'est, on appelle ça comme juste... On joue, puis on se branche, puis on se fait du fun. Puis qu'on gagne ou qu'on perde, ça change pas. Mais t'as un mode ranké. Ça veut dire que t'as un leaderboard. C'est que comme un...
À la fin, tu
trouves
fin, sur une
charte. À la fin, mettons, genre, sur une charte, et ça s'appelle du MMR. Et là, t'as, mettons, les gens, exemple, de 1000 à 2000 jouent ensemble, 2000 à 3000 jouent ensemble, 3000 à 4000. À chaque fois qu'on gagne une victoire, ça nous donne, mettons, 25 points. Quand on perd, ça nous en enlève, mettons, 20. Puis là, on monte de niveau comme ça, plus on joue. Comme ça, on joue du monde avec de notre calibre. Mm-hmm. Mais il y en a qui ont de la difficulté à sortir comme de leur braquette parce que soit que les gens avec qui ils jouent sont pas bons ou c'est toujours la faute des autres. De toute façon, quand on joue à ce jeu-là, c'est que, non, mais des fois, c'est souvent l'attitude que tu vois.
Ouais,
là,
ouais.
C'est que, tu joues un héros, mais pendant que tu joues, le gars qui joue un autre héros, t'es en train de te dire comment tu devrais jouer le tien. Il y en a beaucoup. Là, c'est que des fois, c'est désagréable. Mais là, quand tu achètes ce Battle Pass-là, ça nous donne la chance de se rejouer, comme recalibrer notre niveau. Parce que là, un coup que tu jouais ce qu'on appelle en rank, ça veut dire avec le leaderboard, t'es pris là, à moins de te créer un nouveau compte, de repartir à zéro, t'es pris dans cette braquette-là. Là, avec le Battle Pass, ça te permet de la chance de rejouer 10 parties qui va te requalifier dans une autre braquette ou pas. Mm-hmm. Et à la fin du tournoi, tu vas pouvoir décider si tu changes de braquette ou pas. Parce que pas t'oublies que, mettons que ça va super bien. Puis là, t'es dans la braquette de 2 à 3000. Puis là, tu te classes dans le 4 et 5. Ça ne veut pas dire que tu es niveau 4 et 5 non plus. C'est que ça va te permettre de jouer un peu dans ces braquettes-là pour voir est-ce qu'ils sont vraiment haut de calibre pour, trop haut calibre pour moi. C'est que ça donne vraiment une belle chance aux joueurs qui veulent peut-être se démarquer un peu plus parce qu'ils sont pris dans une certaine braquette qui jugent peut-être qu'ils sont qui méritent pas d'être là.
Maintenant, si on veut participer à ça, est-ce qu'il faut se rendre sur place? Est-ce que c'est une compétition qui va avoir lieu?
C'est sur Internet? C'est sur Internet.
Simplement,
ça donne un billet aussi pour assister à la compétition en ligne, avec le streaming. Mais c'est pour la compétition à Seattle, là, non, ça. Il faut absolument que tu te déplaces si tu veux y aller. Mais ça donne vraiment accès à plein de choses. Puis les quêtes, c'est que ça motive les gens à retourner jouer. Comme ça, une quête, ils vont dire, faut que tu achètes tel item en dedans de 10 minutes. Faut que tu tues tant d'héros en dedans de 5 minutes. Faut que tu détruis tant de tours en tant de victoires. C'est que tout ça aide les gens à vouloir jouer. La seule chose qui est encore différente, puis ça, des fois, ça enlève, c'est qu'il y a des gens qui ont... Et mettons, ils ont le héros du jour. Tu joues ce héros-là, tu gagnes une partie, ça te donne des points pour monter de niveau dans ton Battle Pass. C'est juste que des fois, tu te ramasses que tout le monde veut jouer un héros pour débloquer les points, mais les gens ne savent pas jouer ce héros-là. C'est que ça te scrape une partie. C'est qu'il faut juste faire attention avec ça. Mais pour ceux qui aiment Dota 2, je conseille de... la mise à jour est sortie cette semaine.
Tu choisis de jouer avec tes amis. Parce que moi, je joue avec du monde que je connais pas. T'sais, contre, ça va, mais avec, est-ce que tu peux choisir tes amis?
Mais tu peux te faire une équipe. On appelle ça un party. Là. Je peux inviter comme 4 autres personnes, puis on va jouer contre d'autres gens qui jouent en équipe. C'est de même que les équipes professionnelles pratiquent la part du temps. Mais c'est ça qui est un peu décevant. C'est que souvent, comme moi, je vais jouer en solo, je vais jouer juste avec une autre personne. T'sais, mettons que ça a donné qu'on s'entend bien ou que j'ai rajouté dans ma liste d'amis. Mais c'est ça. C'est quand tu joues en mode solo, puis mettons que c'est vrai qu'il y en a 2 sur 5 qui jouent vraiment mal ou qui font des niaiseries, ça vient choquant parce que tu as l'impression d'avoir perdu ton temps.
Ouais, j'ai bien des amis qui jouaient à ce jeu-là, puis ils ont arrêté à cause de cette. Ce petit facteur-là. Ça valait plus la peine, on dirait, pour eux de continuer.
Mais aussi, il y a des gens qui, quand tu n'es pas bon, ils te le disent live aussi. Puis ça, c'est un peu décourageant quand tu commences dans ce jeu-là. Et y a-tu des serveurs qui sont dédiés seulement aux débutants de Dota, Yann?
Tu peux te faire des chambres de pratique.
OK.
Puis après ça, mais quand tu commences, mais tu vas être dans le niveau plus bas. Comme il y en a qui on appelle ça des Smurfs. Là.
Ouais.
Ça, c'est des gens de haut niveau qui se partent un autre compte, puis qui font par exprès pour perdre, pour aller comme clencher ceux qui sont plus bas. Mais ça, tu vois ça dans n'importe quel jeu,
ça,
c'est plate.
Pour s'astiquer l'ego, hein?
Il y en a que s'ils perdent, puis parce que les insultes, c'est ça qui arrive, hein? C'est que tu peux trouver un bon groupe de gens que tu vas t'amuser, mais ça, c'est dans n'importe quel jeu en ligne. Tu joues à Call of Duty, puis tu te fais teabaguer, t'es là... Mais là, sérieux, t'as rien d'autre à faire. Là. Bravo, tu m'as tiré au couteau, tu m'as eu. Tu sais, je veux dire, un moment donné, passe à d'autres choses.
Les joies de l'Internet, Yann. Les joies de l'Internet, j'adore ça, c'est fantastique. D'autre part, j'ai une question, Benoît, pour toi. Il savait que tu venais aujourd'hui. C'est Pietro qui veut savoir pourquoi on l'appelle le Joker 52.
Le Joker 52, ouais. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que dans l'univers actuel de DC Comics, il y a 52 univers parallèles.
OK, c'est peut-être à cause de ça.
C'est probablement un lien avec ça. En fait, donc, le chiffre 52 est très, très présent dans l'univers de DC Comics.
OK, donc
que je vois la couverture.
Oui, c'est ça. C'est le bonhomme avec les espèces de barres. Celui, je pense, c'est le plus récent. Là,
où, le visage étiré?
Oui.
Ah, c'est parce qu'il s'est fait couper le visage. Ouais, il s'est fait découper le visage. Là,
c'est probablement une désignation pour le
c'est le New 52.
Oui, c'est ça, mais c'est ça, lequel Joker... OK, attends, la couverture, c'était marqué 52 dessus?
Oui.
C'est juste l'appellation, en fait, c'est que... Regarde, tu me rappelles, en 2011, ma première chronique à Monsieur Net, c'était à propos de l'univers de DC Comics qui allait faire une refonte. Et cette refonte-là allait être lancée sur un sous-titre qui s'appelait The New 52.
Exact.
Et tout ce qui a été lancé depuis 5 ans a été catalogué dans l'appellation New 52. Et d'ailleurs, Denis, ben, ça change maintenant.
C'est... Rebirth. Ouais.
Il y a quel Rebirth qui s'en vient.
On va en parler dans un instant. Oui. Le temps de te parler de cette... Viens, on t'a un petit peu cette madame-là ici qui est une YouTubeuse qui fait des trucs fantastiques. Réussit à reproduire un paquet de...
Super bonne.
Elle est super bonne. Réussit à reproduire des visages de comment ça s'appelle? De
comme de bande dessinée.
Exactement. Elle s'appelle Kay Pike Fashion sur son site. Allez faire un tour sur YouTube. Elle fait des trucs vraiment fantastiques. Ça lui prend des heures. Et là, justement, elle est en train de se faire le visage de Joker, The New 52. Mm-hmm. Et elle travaille fort. Et l'illusion est vraiment parfaite. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Elle en fait plusieurs. Et ça devient viral très rapidement. C'est vraiment une artiste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Imagine-toi à l'Halloween, ça doit être une journée pour une autre, pour elle.
C'est peut-être sa journée off.
Non, effectivement, mais regarde ça, le détail là-dedans. Et elle joue beaucoup avec les ombres, les couleurs, les contrastes.
Ouais, qu'on peut retrouver en BD, mais que tu ne retrouves pas nécessairement quand tu adaptes le personnage au petit écran ou au grand écran. Puis je trouve que le mariage des deux se fait très bien. Elle est vraiment très talentueuse.
Et non, mais attends de voir le résultat final. On va l'accélérer un petit peu, là, encore un petit peu plus vite. On va aller à la fin. Ben, regarde
oh
ça.
Boy.
Regarde ça, c'est assez pété, merci. Et quand elle se ferme les yeux, on y croit vraiment. Tu sais que ben, elle va se tourner.
Oh.
Hein, c'est pété.
Oh, oui, oui.
Ça ferait pleurer une coupe d'enfants dans la rue. Ça, ouais.
Donc, je tiens un coup d'œil là-dessus. Elle s'appelle Kay Pike. Comment elle s'appelle, j'ai dit tantôt? Kay Pike Fashion, c'est sur YouTube. Elle en a beaucoup. Parle-moi un petit peu de DC, justement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on veut faire, Benoît,
ouais, ben,
avec DC?
C'est ça. En fait, en 2011, ça a fait une espèce de bombe dans le milieu de la bande dessinée américaine. Ça avait même touché les grands médias. C'est que DC avait annoncé qu'elle voulait lancer, la compagnie voulait lancer un nouveau catalogue de titres et qu'il allait être intitulé, en fait, regroupé sur un truc qui s'appelait le New 52. Finalement, l'ambition de cette initiative-là, c'était d'essayer de rapprocher, d'attirer les nouveaux lecteurs, parce qu'on disait qu'on allait remettre des trucs à zéro. Bon, on allait suivre... On essayait d'attirer des nouveaux lecteurs. Finalement, ça n'a tellement pas fonctionné qu'il y a quelques mois, DC Comics a annoncé qu'il allait une fois de plus ramener les choses à la base. Et là, je fais des gros guillemets parce qu'encore personne ne sait exactement ce que ça veut dire.
C'est quoi la base?
Avec une initiative. Ouais. Ouais, ben, peut-être plus proche de ce qu'étaient les personnages avant New 52.
Okay.
Il y a des gens qui ont eu l'impression, peut-être Yann pourrait confirmer, je pense qu'il a lu beaucoup de New 52, là, mais qu'on a perdu l'âme de ce qu'était l'univers de DC Comics quand on est allé dans cette initiative-là. Il y a des titres comme Batman qui n'ont pas beaucoup changé, comme Green Lantern, mais d'autres qui sont tellement vus n'importe quoi qu'ils ont perdu l'âme.
Je pense que ce qui est arrivé, c'est que les titres qui fonctionnaient bien, comme exemple Jeff Jones avec son Green Lantern, quand il a mis les différents corps, comme le Sinestro Corps,
les couleurs,
les Emotional Spectrum, ça, ils ont gardé ça. Batman, ils ont gardé, comme ils sont arrivés, puis Damian Wayne, c'est le nouveau Robin. C'est comme si on a skippé toute la génération de Tim Drake en Robin, qui était déjà comme Red Robin. Mm. On a tout skippé ça. Superman était rendu en jeans puis en T-shirt.
Ouais.
Tu sais, c'était comme le début.
Pas initial. Ouais, au début,
ouais, t'avais comme deux comics. Ouais. T'avais Superman rendu avec le Justice League, puis t'avais comme le début de Superman. C'est que c'était deux comics de Superman, mais à des périodes différentes. Puis ils ont de la misère, comme ils ont dit, comme Ben a dit, il y a eu de la misère un peu avec certains puristes qui ont dit, ben là, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je viens de perdre. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une couple d'années, je pense que c'est l'été passé ou l'autre d'avant, ils ont eu un genre de méga encore crossover. C'est parce que chaque été, il y a toujours ça. Il y a Civil War 2 qui s'en vient chez Marvel. Ouais. Mm-hmm. Puis là, c'est Rebirth chez DC. Et c'est comme s'il y a eu une créature qui était capable de prendre plein de monde, de plein d'univers différents, puis qui faisait battre ensemble.
Comme un gros aréna.
Un aréna, si on veut, intergalactique, interdimensionnel. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on se ramasse présentement dans l'univers de DC avec deux Superman. On a un Superman de New 52,
okay.
Puis on a un Superman en cachette que lui est le Superman, si on veut, original, mm-hmm. ou qui est marié avec Lois Lane, qui a un enfant avec Lois Lane, que là, son enfant découvre qu'il a des pouvoirs comme lui. Puis lui, il se cache parce qu'il dit « Je veux protéger ma famille. » Puis il y a déjà un autre Superman. Puis lui, il vient comme de la dimension.
OK, autre dimension.
Une autre dimension qui vient comme du avant le New 52.
Si je peux simplifier tout ça, ce qui est intéressant, ça c'est propre à la. C'est très compliqué, surtout pour DC Comics, parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça.
Non, non.
Ce qui est le fun de DC Comics, c'est que c'est une compagnie qui a grandi en achetant d'autres sociétés. Ils ont acheté d'autres compagnies comiques. Finalement, les personnages ont été intégrés à leur ligne. Donc, dans les années 40
comme
ou 50,
Storm.
Entre autres, Shazam, Captain Marvel, ouais. au fil des années, ils ont rajouté d'autres personnages. Donc, comment est-ce qu'ils ont expliqué qu'à une certaine époque, Batman avait des aventures cosmiques avec des carottes géantes qui parlent? Ben, ils ont dit, ben oui, mais à cette époque-là, c'était une Terre parallèle. Fait qu'à un moment donné, dans les années 80, il y a eu plein de Terres parallèles, puis ça venait le foyer total.
Oh, je comprends.
On va faire un truc qui s'appelle Crisis on Infinite Earth. On va garder une Terre. Fait qu'ils ont fait ça. Ils ont gardé une Terre, puis c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Après, il y a eu Infinite Crisis, où ils ont réouvert
52.
Il y a eu les 52 Terres parallèles. Après, ils ont fait New 52, et là, ils veulent resimplifier ça. Alors, ils utilisent cette initiative-là pour essayer de simplifier la ligne, de revenir à leur base, qui font Rebirth. Là, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un doute derrière ça qui s'appelle
compliqué.
Jeff Jones. Ouais. Et Jeff Jones, c'est un très bon auteur de bande dessinée. C'est un gars que, d'un, il connaît ça. Il est parti comme fan. Il est devenu écrivain, scénariste de bande dessinée. Il fait des histoires dans lesquelles il simplifie toute cette historique-là compliquée, puis il les actualise au goût du jour. C'est que, moindrement que tu es intéressé, c'est une histoire intéressante. Le gars, il a grandi, il a fait tellement de la bonne job, il a progressé dans la compagnie et est devenu Chief Creative Officer. Ça veut dire que tu es président, tu gardes un œil sur tout ce qui se fait au niveau de la le ton de ce qui se fait en bande dessinée.
C'est pas lui qui est rendu Warner Brothers.
Et c'est là où l'annonce qu'on a appris cette semaine.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle
Jeff Jones.
Jeff
G-E-O-F-F.
Okay. C'est ça. Et le gars a été nommé cette semaine un des deux grandes têtes qui allait diriger ou garder un œil sur DC Films, qui est la nouvelle branche de Warner Brothers, qui s'occupe des propriétés intellectuelles pour le cinéma. Cette semaine, on a eu une entrevue avec lui pour Rebirth. On lui a demandé qu'est-ce qui s'en venait, tout ça. Il ne pouvait pas commenter à propos de sa nouvelle position à la tête de DC Films, mais quand il parlait de Rebirth, il parlait d'Optimus, il parlait de revenir au cœur de ce qu'étaient ces personnages-là. Et là, on se dit, le dude, il connaît ces personnages-là, il connaît l'univers, il va faire ça pour la BD, check bien ce qu'il va faire pour les films, parce qu'on s'entend, Yann a aimé Batman v Superman, moi j'ai pas aimé ça, mais c'est très sombre. Et là, on se dit peut-être qu'avec Jeff Jones, qui dirige un peu tout ça, tout va transiter, passer par lui, on pourrait peut-être aller dans quelque chose qui est plus lumineux.
Donc c'est des renaissances, il prend des personnages, il les fait renaître, c'est ça?
Non,
ou c'est l'histoire, il
met Benoît dit, il met au goût du jour.
Okay.
C'est comme Green Lantern, techniquement, c'est un policier intergalactique.
Okay.
That's it. Depuis que Green Lantern existe, on entend parler de Blackest Night parce que ça fait partie de son vœu, si tu voulais, quand il rechargeait sa batterie ou ainsi de suite. À un moment donné, ça semblait trop compliqué. Lui, il est arrivé, il t'a cleané ça un peu, il t'a mis tous les autres corps, tu sais, comme Fear, Hope, Rage, tu sais, toutes les émotions. Ouais. Il était fait comme... puis c'était écœurant. Ça a duré comme 3 ans.
Ouais,
c'était
plus écœurant. Que ça, 4,
après ça,
ans.
Ils ont donné à Aquaman. C'est que là, ils ont donné un but à Aquaman. Bang! Tu sais, Aquaman, t'es plus juste un gars qui vole en dessous de l'eau. T'as un but, tu sers à quelque chose. Ouais. C'est que lui, il prend ça puis il remet ça un peu...
Il donne une twist.
Comme avec les BD, ils veulent ramener ça à quelque chose de plus proche de la base que sont ces personnages-là. Là, lui, il est vice-président, finalement, de quelque chose qui va légiférer sur les films. Fait qu'on pourrait faire la théorie, on pourrait faire le lien que l'univers cinématographique, éventuellement, DC Comics, pourrait refléter un peu ce qui se fait dans la BD. Parce que c'est une des critiques principales.
Bonne question pour toi. Oui, il y a AK qui veut savoir... la série Gotham, est-ce que c'est considéré comme un rebirth, ça?
C'est pas considéré comme un rebirth. La série, tu parles de Gotham à la télévision?
Ouais.
Gotham, c'est... Si tu y vas d'un point de vue de puriste de bande dessinée, ça peut faire partie d'une des 52 terres parallèles. C'est comme si, l'idée... Quand on parle de terres parallèles, ça a l'air super compliqué, mais c'est l'idée comme quoi toute idée fictive a un espace physique dans lequel il existe. C'est juste pour pas l'effacer. Ça, mettons, moi, demain, je fais une histoire qui est « Hey, c'est Batman The Animated Series ». Mais Batman The Animated Series, dans le concept des temps parallèles, elle existe quelque part. C'est un concept qui est fictif. Là.
DC utilisait ça, c'était un concept de... C'était comme une licence, ou j'appelle ça un printing license, là, mais ça s'appelait Elseworld.
Ouais,
ça, c'était une licence où ce que tu vous donnais le pouvoir créatif à la personne d'écrire, genre, puis un des plus populaires, c'était genre Batman se fait mordre par un vampire.
OK.
C'est Batman, Batman, c'est un vampire qui se bat contre Dracula. Dans un autre, Superman, il n'est pas atterri au Kansas, il est atterri en Russie, okay. Puis il est devenu l'agent principal de l'URSS.
Donc, ils ont carte blanche, les gars.
Ils ont carte blanche, ça s'appelait Elseworld. Là, à un moment donné, il y en a qui sont devenus plus populaires. Comme exemple, Damian Wayne, qui est le fils de Bruce Wayne, vient d'une histoire, Elseworld, qui est The Son of Batman, où Batman, il y a un enfant avec Talia al Ghul, qui est la fille de Ra's al Ghul. Mais cette histoire-là est devenue tellement populaire qu'un des personnes qui a pris le contrôle du comic de Batman a décidé d'intégrer cette histoire-là en voulant dire oui, un moment donné, cette fille-là, elle a drogué Bruce Wayne pendant une fin de semaine.
C'est vraiment arrivé.
C'est vraiment arrivé, puis elle a eu un enfant avec. C'est techniquement, Bruce Wayne s'est fait violer par Talia al Ghul pendant une fin de semaine complète.
GHB,
là, il y a eu un enfant. Non, mais, tu sais, on niaise, c'est pas drôle, le viol en passant. Non, mais je fais juste, on niaise parce que c'est des comiques. Là.
Ben, c'est
parce que le personnage de Damian Wayne est devenu comme populaire tout d'un coup, c'est qu'on l'a comme officialisé sa présence dans l'univers de DC. C'est que c'est ça que ça sert, comme il dit. Ça existe.
Est-ce qu'il y avait
si c'est populaire, ça donne la chance de pouvoir l'intégrer après.
Est-ce que le Son of Batman avait les caractéristiques de sa mère ou de son père?
De son père, parce que depuis qu'il est jeune, il se fait entraîner. Il a 10 ans. Mais il se bat, c'est un des meilleurs assassins au monde parce qu'il se fait entraîner par une ligue d'assassins depuis qu'il y a comme 10 mois.
Moi, j'ai l'impression que, tu sais, on a ouvert beaucoup de portes, puis peut-être que les gens qui suivent pas la BD sont un petit peu mélangés. Ah, la nouvelle, essentiellement, ce qu'on voulait dire, c'est que il y a un gars qui s'appelle Jeff Jones. Ce gars-là travaille pour DC Comics depuis des années. C'est un excellent auteur qui connaît son contenu. Récemment, il a fait une conférence de presse parce qu'il allait parler de Rebirth, qui est une nouvelle initiative de DC Comics pour relancer la ligne, revenir plus près des personnages. Mm-hmm. Et cette semaine, en plus, on a annoncé que ce gars-là, en plus de faire ça, ben il va être le gars en charge de DC Films, qui va légiférer sur le ton, la tonalité, la qualité des films de DC Comics. Donc, qui s'en viennent, donc Justice League compagnie. Et comme le gars, c'est quelqu'un qui connaît son stock, qui aime le stock lumineux optimiste, on s'est dit, il y a des gens qui ont fait des liens, est-ce que l'univers de DC Comics au cinéma va devenir ce côté-là lumineux qui manque tellement en ce moment? C'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Après, les espèces de portes qu'on a faites, là, on est loin. Là.
Non, mais c'est intéressant. C'est parce que,
pour ceux qui aiment ça, tant mieux.
Ben oui, non, mais c'est cool, mais c'est un peu mélangeant, effectivement, pour l'année en fait. Mais j'ai appris des affaires, j'aime ça.
Good.
D'autre part, il y a un manège qui va te plaire qui est paru. Mais c'est dans quel coin de pays, ce moyen?
C'est en Californie, mon Denis. J'espère que ça va fonctionner. Mais sinon, je vais peut-être me payer un billet. Je vais aller à Legoland avec les enfants. Je vais être dompé là puis je vais aller voir ça.
C'est un manège en 4D.
Pour ceux qui ne connaissent pas le 4D, il y en avait à Universal Studios. Je pense qu'il y en a encore. Il y en a à Walt Disney. Ouais. C'est un manège.
Il y avait Lilo and Stitch.
C'est un cinéma.
As-tu fait Lilo and Stitch?
Oui, je fais Lilo and Stitch.
Ça a
pris pas mal en 4D. Ceux-là, les bugs à Walt Disney Animal Kingdom, c'est le même concept. On est assis sur une chaise de cinéma, il y a un spectacle en avant, on a des lunettes, mais en même temps, il y a de l'eau qui nous tombe dessus, des pics qui sortent du banc, des senteurs.
Des odeurs, oui, c'est ça.
Des odeurs. Et là, il y en a une qui est sortie qui est sur Mass Effect.
Écoutons la bande-annonce tout de suite.
C'est au Great America à Santa Clara, en Californie.
Ça, c'est la publicité, OK?
OK, go.
Welcome aboard Mass Effect New Earth at California's Great America, where anyone can be an explorer. Please prepare for an immersive 4D holographic journey across the galaxy. If you dare.
C'est un petit teaser, hein?
C'est un petit teaser. Et là, finalement, ça a été ouvert aux journalistes. Ça dure 4 minutes et demie ou 5 minutes environ. Mm-hmm. Et les gens adorent. On voit des Rachni dans Mass Effect. On passe à travers un Mass Effect Relay qui est comme un pilier de l'univers de Mass Effect. Ça a de l'air cool.
Un genre de montagne russe, quoi? Ou...
Mais ce que j'aimerais, par exemple, c'est que si ça fonctionne, ça peut être intégré genre à un... Tu sais, quelqu'un comme Six Flags peut l'acheter. C'est que tu peux en avoir un au Lac George ou tu peux en avoir un à Montréal. Parce qu'avant, à Montréal, il y avait... Tu sais-tu le Tyrannosaure Rex?
Je m'en souviens.
On se promenait. Tu sais, c'est que ça, il y a la place pour faire ça. Et de plus en plus, ça vient populaire, ces films-là, parce qu'un coup qu'on a la technologie, on a les bancs pour le faire, il reste juste à adapter des films par rapport à ce que t'as comme banc.
Des casques.
C'est ça.
Entre autres. Ou des manèges qui s'en viennent comme ça.
À la ronde, je l'ai essayé, le manège qui bouge avec les lunettes virtuelles.
Samsung,
c'est ça.
Donc, ça s'en vient.
Ça, c'est... On a, j'imagine, ce genre de lunettes-là aussi. Je sais pas.
Non, c'est des lunettes comme les lunettes 3D.
OK, 3D, tout simplement.
C'est un écran.
Okay. Ouais, c'est considéré comme, je pense, puis là, je veux pas me dire, Yann, t'as pas raison, mais je pense que c'est un des plus grands écrans LED au monde, puis c'est pour ce spectacle-là.
Ah, intéressant.
Yann, t'as pas raison.
Ouais, je sais que tu vas te chaler que t'as pas
raison. Vous savez que Ubisoft va lancer son film d'Assassin's Creed très prochainement. Tu veux la bonne annonce?
Ouais.
Ben moi aussi, je l'ai. On va te montrer, puis on va en reparler après, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient avec eux autres. Ils ont trouvé une nouvelle façon de faire de l'argent.
Ah ouais?
Ah ouais. C'est surprenant, tu vas me dire.
Des DLC dans le film?
Va voir.
Where am I?
At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist.
Ben oui, ben c'est oui. Marion
c'est
Cotillard. Tu ris, tu parlais de...
Ah ouais, t'as Asgul, c'est...
Lo and Behold, prochain film basé sur la série donc Assassin's Creed, Ubisoft va offrir des précommandes, mon Yann.
Pour les billets.
Des pays, oui, pour les billets, mais pas juste pour les billets. Hein? Check bien ça, tu peux aller faire un tour, un peu à la façon d'un jeu, tu peux acheter tes billets en précommande à 15$ ici. Donc ça, ça va te donner... La chance d'avoir les billets avant tout le monde. Pour 40$, bien sûr, tes billets, un T-shirt. Tu peux avoir une montre aussi et le scénario en version digitale du jeu numérique.
Mais non, ça va être leaké. C'est ça qui est
50$, Yann. 50$. Regarde, t'as un beau kit à 50$.
Ah, il est déjà parti.
Sorry, all gone. Il n'y en a plus.
Une casquette, un pop vinyle.
Exactement, une figurine puis du popcorn, bien sûr.
C'est pop, toi.
Mais j'en ai une coupe, mais je suis sûr que j'aime vraiment. Comme j'ai un Cthulhu chez nous, je le trouvais cool.
Je ne sais pas, c'est pop.
Mais il y en a un pareil dans celui-là.
De l'argent. À un moment donné, le monde va jeter ça aux poubelles.
Puis <ouais. rire> là, quand ça va jeter aux poubelles, tu vas faire les poubelles.
Je vais
c'est ça. Pas 60$, c'est le McFarlane Toy Aguilar Hidden Blades, l'espèce de bling et un popcorn. 120$, c'est un hoodie avec un popcorn. 600$, encore une fois, la Premier Skills Tattoo, super belle, jolie, encore une fois. 1200$. De l'arbalète d'Ubisoft qui vient du Ubi Workshop. Donc, si ça vous tente de participer à ça, vous pouvez aller faire un tour sur le site Assassin's Creed qui va être dans les bons cinémas un peu partout. C'est une belle façon de faire du cash.
Ça sort quand, ça? Ça sort pas?
Décembre.
En décembre, oui, exactement.
Okay, ouais.
Qu'est-ce que tu en penses, Yann, de ça?
Ben moi, je pense que non, là, pour les précommandes. Je veux dire, la part du stock que tu m'as montré là est déjà en vente, genre sur Ubi Workshop, où tu vois ça, tu sais, les pop. À moins que ce soit des grosses exclusivités. Puis là, je serais surpris.
Non, mais tu dis non, mais c'est parce que tu n'as pas eu l'item qui te fallait. C'est ça l'affaire.
Mais c'est ça qui arrive souvent, hein, c'est que des fois, on peut résister longtemps. Ouais. Ou des fois, il y a juste une petite affaire.
Tu sais, un Pip Boy qui sort.
C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu te contrôles.
Ouais, c'est dur,
ça qui arrive. Moi, je me contrôle de plus en plus parce qu'à un moment donné, je réalise que, un, je manque de place dans mon sol.
Ouais. Puis deux, mais il y a beaucoup de calendar, ces tablettes.
Oui, ouais, mais ça, on joue avec les enfants.
Oui, c'est ça. C'est pour les enfants.
Regarde ça, mais moi, je n'étais pas là. Puis je ne sais pas si on en a parlé, mais Disney Infinity, c'est fini.
Exactement, on en a parlé.
On en a parlé. Là, c'est que, déjà là, il y en a qui commencent à tirer à plug puis ça coûte trop cher.
En même temps, tu as des compétiteurs comme Lego Dimension qui s'en va dans le dash.
Il y en a un qui dit j'espère que le film ne sera pas buggy.
Il y a une mise à jour de 5 gigs avant que le film commence.
Ah, ça serait tellement drôle!
Updating, genre, avant.
Pour vrai, là, tu sais, si Ubisoft voudrait compter des points,
ça serait drôle.
Tu fais ça.
Ça serait super drôle. Puis, il faut t'acheter la fin.
Ben, t'imagines-tu, ils sortent ceux qui ne sortiront pas un Assassin's Creed par rapport au jeu, là, mais mettons qu'ils sortent, puis là, tu as ton téléphone intelligent, tu as l'application Assassin's Creed, puis là, si tu vois le film, ça te donne un code à la fin, tu rentres ce code-là, puis ça te débloque de quoi dans le jeu. Tu sais, à un moment donné, ça va venir à ça.
Oh,
pareil,
oui, c'est certain, mais regarde, juste en partant.
La synergie.
Avant le film en question, tu peux jouer sur ton téléphone pour avoir des points.
Ou Cineplex, j'ai joué la dernière fois.
Je juge tout le temps le monde qui font ça.
Ben, tu m'aurais jugé parce que j'ai joué.
Il y a sûr Maximum qui est un fan de la série qui, lui, achète tous les bundles. Qui dit.
Ah ouais. Mais ça dépend, c'est ça. Moi, si c'était un truc de Star Wars, peut-être je me laisserais tenter. Là, ou... Je sais pas.
Ah, et puis l'arbalète au cinéma, pour ceux qui parlent, ils trouvent ça très pratique sur Twitch.
Moi, j'ai vu ça c'est aujourd'hui, les fameuses représentations comme style cinéma, mais t'es dans des jacuzzis.
Ah bon?
La meilleure affaire pour que du monde parle. Hein?
Mais je te conseillerais pas d'aller, puis c'est super cool qu'ils ont ça, mais les.
Dans le dernier show de la soirée.
Tu vas pas voir le cinéma poussette, par exemple.
Tu vas à la première représentation.
Tu vas à la première représentation.
Pas l'eau.
Tu vas pas là à la fin de la soirée. Ouais. Non, je vais.
Le popcorn qui flotte.
Oui, j'espère que c'est du popcorn. D'autre part, mesdames, messieurs, il y aura une 11e saison des X-Files.
Ben oui, ça fait longtemps qu'on a parlé des X-Files, Denis. La dernière fois qu'on en a parlé, on a parlé un peu de notre appréciation de la 10e saison.
Non.
Okay.
Mais ils vont en 11e saison des X-Files, Denis, parce qu'il y a Dana Weldon et Gary Newman, qui sont deux présidents du Fox TV Group, qui récemment, durant une conférence de presse, se sont fait demander ce qui arrivait avec la 11e saison des X-Files. Ils ont confirmé ce qu'on entend d'ailleurs depuis la fin de la série, comme quoi David Duchovny, Jim Anderson et Chris Carter, le créateur, le showrunner des X-Files, sont tous intéressés à venir à bord pour une 11e saison. En ce moment, c'est plus une question de trouver l'horaire parce que tout le monde a des projets individuels. Jim Anderson est en train de faire The Fall, David Duchovny une nouvelle série. D'ici l'année prochaine, donc mai 2017, il aurait une annonce pour nous. Donc, 11e saison X-Files.
Un autre 6 bons épisodes, j'ai pas de problème avec ça.
6 épisodes bons, ouais. Moi, mon problème, c'est qu'il y a des épisodes très, très inégaux.
Il y en a deux que j'ai vraiment pas aimé.
Ouais, moi aussi. Il y a deux.
Celui-là avec le vidangeur.
Ouais, ouais, moi j'ai vu aussi.
Très ordinaire.
C'était vraiment
ordinaire.
Celui
sur le trip de champignons aussi, c'était complètement
inutile.
Ouais,
c'était inutile. Celui-là que j'ai aimé, par contre, j'ai trouvé ça cool, c'était le lézard qui s'est fait mordre puis qui devient comme humain. Ça, c'était vraiment un clin d'œil à tu sais, comme 8 saisons d'X-Files.
En partant,
là.
Ce qui était intéressant, c'est qu'on adressait le fait que Fox Mulder, depuis la fin des années 90, fin des années 2000, il y avait des choses qui ont été expliquées par la science. Donc, on faisait le pont entre la réalité de l'époque quand la série s'est complétée à aujourd'hui. Ça, c'était le fun en partant. Et en même temps, il y avait bien des gens qui étaient surpris du traitement humoristique de cet épisode-là, mais le gars qui était derrière est un scénariste qui a toujours écrit des scénarios dans ce style-là, dans les scénarios les plus célébrés de X-Files. Donc, c'est un très bon épisode. Moi, j'ai senti une certaine X-Files fatigue. Le dernier épisode de la série, je ne l'ai pas non plus aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu garoché. Il y a des choses qui étaient très précipitées. Donc, si on est pour avoir une prochaine saison, je suis ouvert. Mm-hmm. Mais je voudrais qu'on y mette... T'sais, Chris, t'es fatigué. Chris Carter, je m'excuse, t'es fatigué. Amène des auteurs... qui
X-Files Rebirth.
Peut-être éventuellement. Peut-être. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont amené deux nouveaux agents dans la série, puis t'as l'impression qu'ils veulent faire en sorte pour qu'ils prennent le flambeau éventuellement, mais ils sont
pas
attachants.
Encore une fois, mon côté, des fois, quand t'écoutes des émissions, quand t'es plus jeune, puis tu vieillis, tu sais, ma blonde, des fois, elle me niaise avec ça. Elle dit, toi, tu te chioles ça parce que t'es rendu à 40 ans. Mais tu sais, souvent, je regarde, puis je suis comme déconnecté un peu de la réalité où mon deux, il est en cachette depuis, genre, comme techniquement, 15 ans là, ou 10 ans. Puis là, tout d'un coup, t'as un badge, un gun.
T'es revenu.
T'as pas de physical à faire. T'as pas d'examen.
Dans n'importe quoi, il y a des sauts d'esprit qu'il faut que tu acceptes.
Ouais, j'ai de la misère de plus en plus.
Pas
avec
moi.
Tu sais, comme j'écoute une émission avec ma conjointe qui s'appelle Lucifer. C'était basé un peu sur la BD de Neil Gaiman que j'ai trouvé dans le temps. Je trouvais super cool. Puis, c'est humoristique, c'est un genre de cop show sérialisé là, qu'on appelle, mais je trouve que l'acteur qui joue Lucifer, il est bon, puis c'est quand même pas pire. Puis, à chaque fois que genre la policière, parce qu'elle est mère monoparentale, là, à chaque fois qu'elle reçoit un call, puis elle se présente en quelque part, mais des fois ça se passe comme en dedans de 15 secondes, puis je suis là. Mais qui garde le kid?
Quand est-ce qu'ils prennent
le
douche, mon gars?
Le samedi, dimanche soir, t'es-tu devant ta pelouse en train de regarder si les voisins du quartier vont marcher dessus?
Ben
des formations professionnelles.
Chant
de mine. Chant de mine puis Mirador. Allez pas chez Yann le soir, c'est dangereux. Mais écoute...
11e saison.
Est-ce qu'on a un nombre d'épisodes?
On
n'a
pas de nombre d'épisodes, on n'a pas de date. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que d'ici l'année prochaine, mai 2017, les gens du Fox TV Group, de Fox, vont avoir une annonce pour nous. Pour l'instant, c'est en négociation. Mais écoute, d'après moi, ça va se faire parce que David Duchovny, Anderson et Chris Carter ont tous dit, bien avant cette annonce-là, qu'ils étaient intéressés. Donc, c'est plausible.
Ça
à moins qu'il y ait une perte de momentum, s'ils ne sont pas capables de s'entendre aussi pour l'argent, parce qu'on s'entend que J. Anderson, à l'époque, pour la 10e saison, on voulait la payer moins que Mulder. Et ça avait fait un tollé, parce que il n'y a pas de Fox sans Mulder, puis il n'y a pas de Mulder sans Anderson.
On a compris.
Ouais. Fait que c'est ça. Je suis perdu dans les noms des personnages fictifs et les vrais.
C'est parfait. D'autre part, monsieur Yann, vous êtes allé faire un tour chez Obsidem, des chums de Radio Talbot. D'ailleurs, tu as entendu ma voix là-bas.
Oui, j'ai entendu ta voix avant de rentrer dans la pièce. C'est toi qui fais
les consignes
de
sécurité.
Consignes de sécurité, c'est très cool.
Effectivement. Effectivement. Parle-moi donc un peu des scénarios là-bas. Lequel tu as fait?
OK,
toi?
Moi, j'ai fait la bibliothèque. OK. Qui est le study en anglais. Là, on l'a fait en français. La bibliothèque. C'est super facile d'accès. C'est sous Partenay, juste à côté du pont Jacques-Cartier à Montréal. Ça faisait longtemps qu'on se disait, faut y aller.
Ouais,
moi,
jamais
Denis,
été.
Ça ne donnait jamais. Là, finalement, moi, puis en tout cas, j'ai évité nos sorties familiales. Mais moi, ma soeur, son conjoint, ma conjointe, on se fait des sorties quand c'est nos fêtes. Et là, on s'est dit, ben gars, les deux, on était intéressés à aller là. C'est que je dis, on va aller à Obsidem, ça fait des années que je veux y aller, on y va. Et je vous dis, c'est incroyable. C'est une sortie à faire. L'argent, ça vaut le détour.
Explique ce qu'il faut faire là-dedans, exactement.
Obsidem, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle des escape rooms. C'est que c'est des salles où il faut s'échapper. Exemple, nous, on s'est fait embarrer dans une bibliothèque et on avait 60 minutes pour trouver la clé pour sortir.
Bon, comment ça se prend? Comment ça se passe?
Je veux pas donner vraiment...
Donne pas de punch. Donne pas de punch.
Pas punch, mais là, t'es dans une pièce, puis t'as accès à peu près à tout ce qui est dans la pièce.
OK.
Faut que tu trouves. Là, tu trouves des indices un peu pour des choses, exemple, qui étaient cachées, exemple, en arrière d'un livre ou quelque chose, en arrière d'un sofa, des choses comme ça. Et là, faut que tu mettes ça ensemble pour trouver le moyen de sortir de la pièce.
T'es chronométré,
t'as 60 minutes pour sortir. Nous autres, on est sortis, il nous restait 5 secondes. Wow. On était 4. Mais moi, quand je suis rentré, la première chose que je me suis dit, c'est « Wow, on est 4, puis la pièce est quand même assez petite. C'est sûr qu'on va être capable de sortir avant de 60 minutes. On va manquer de place pour regarder. » Non, parce qu'à un moment donné, quand tu sais pas, j'ai-tu toutes les pièces?
Ouais.
Est-ce que j'ai tous les indices avec moi? Non, il manque quelque chose. Puis des fois, avec le pouvoir de déduction, tu vas dire « Ah, non, c'est sûr qu'il manque de quoi parce qu'il manque ça. » Exemple au milieu. Là, encore une fois, je suis vague, mais comprenez que c'est le genre de pièce où on paye, on le fait une fois, c'est 25$ ou 20$ par personne, dépendant des pièces. Mm-hmm. On le fait une fois, tu peux plus le refaire après parce que tu as trouvé l'énigme puis tu es sorti. C'est sûr que c'est ce genre d'activité-là, il faut qu'ils chargent un petit peu plus cher parce que
faut qu'il refasse,
pas retourner les... quatre fois faire la même pièce, mais tu as le goût d'y retourner. On est sorti de là après une heure puis on était prêt à en faire un autre. Là, on voulait-tu en recommencer? Il y en a d'autres qui sont pour moins, tu sais, pour deux. Exemple, le duo dynamique, c'est deux personnes. Mm. Je pense que ça, c'est pas un secret. Là. T'es yeux bandés, t'es menotté, il faut que tu travailles à deux pour sortir de là. Il y en a un autre qui s'appelle Le Piège.
Ça me rappelle mon week-end.
Ça me rappelle mon dimanche soir. Le Piège, où je pense qu'il y en a, il faut que tu t'essayes d'éviter. Si j'ai bien lu, tu sais, comme exemple, il y a des censures rouges un peu, puis ça fait un peu. Faut que t'essaies de t'introduire par infraction dans quelque part sans te faire prendre par les caméras. Il y en a un autre, c'est comme une scène de crime. Faut que tu trouves toutes les indices de la scène de crime, puis après ça, il faut que tu les mettes ensemble pour essayer de deviner ce qui s'est passé. Un peu comme dans un jeu de Sherlock Holmes. C'est des choses comme ça. Moi, je vous le dis, pour une sortie familiale ou avec des amis, c'est parfait. Allez là, allez super après, c'est ce qu'on a fait. J'ai adoré. On est super bien accueillis. Et pour un geek, là, tu te sens chez vous. Tu rentres, il y a des lithographies, puis il y a des pièces, qui exemple, d'artistes du Comic-Con qui sont là.
Wow.
Donc, il y a un M64 puis un NES pour passer le temps en attendant. Il y a un foosball table. Sur la table, il y a plein de comics. Il y a des vieux Batman, des vieux G.I. Joe. T'sais, on se sent t'sais, comme accueilli. Les gens étaient super sympathiques, autant ceux qui s'occupent de notre pièce.
C'est comme un Fort Boyard, mais pour les geeks.
Oui, mais comme pas juste ça. Comme mes parents, ils ont le goût d'y aller aussi. Ah ouais. Mais il faut y aller avec du monde, par exemple, parce qu'il faut bien travailler en équipe. Parce que si tu y vas, exemple, avec du monde qui vont juste s'asseoir, du bah, c'est poche, moi, je veux pas chercher, ou moi, je sais pas c'est quoi. Il faut que ce soit du monde motivé à aller là. Mais je vous le dis, ça vaut excessivement la peine. J'ai adoré. C'est sûr que j'y retourne. Et après ça, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'à Montréal, juste à Montréal, je pense qu'il y a 4 ou 5 endroits qui font ça. Il y en a, c'est Find the Key. Il y en a un dans le Vieux-Port. Mais je vous dis, là, à date, si vous pouvez commencer. Et il y en a qui mettent leur niveau de difficulté aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous en faites? Il y en a qui vont dire, comme cela, il nous a dit, si c'est en haut des yeux, c'est de la décoration seulement. Si vous voyez une main avec un X dessus collé sur l'item, c'est de la décoration. Comme exemple, dans cette pièce-là, il y a un arfan comme des neiges empaillées. Il y a une main avec un X. C'est de la décoration.
Parce qu'ils sont obligés de faire ça parce que les gens faisaient des trous dans les murs.
Oui. Ben, moi, littéralement. Je ne peux pas aller dans les affaires de même, Denis. Moi, je suis claustrophobe. Si moindrement, je suis embarré quelque part, je vais capoter. Fait que, pour Yann, c'est peut-être une partie de plaisir. Moi, je suis rentré de me dire comment est-ce que je peux découper Yann pour survivre 2 mois sur son cadavre.
C'est non, mais peut-être que ça va te sécuriser. Il y a toujours une clé qui est à côté de la porte, qui est comme une clé de secours. Et là, puis ils disent, si vous l'utilisez, ça finit.
Le jeu est fini.
Mais c'est pour l'utiliser en urgence seulement. C'est pour quelqu'un qui est comme toi, qui a peur de rester pris en quelque part, le fait que tu peux voir cette clé-là, peut-être ça te rassurerait un peu.
Oui, probablement, oui, c'est ça.
Puis faites attention au décor. Ne débrisez rien. Les gens qui ont enlevé des prises électriques, ils me disaient...
Ah, oh, mais c'est ça. Il fait la joke. Ouais. Il dit... il y a des prises électriques. Spoiler, si vous l'enlevez, il y a de l'électricité en arrière. Ça, c'est bien fait.
Il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Il y en a qui est en train de creuser pour essayer de sortir à travers le mur du Chiproc. C'est sûr que si tu grattes un peu, tu vas sortir. Il y en a au 10-30.
Il y en a un qui s'appelle Breakout au 10-30 aussi.
Mais juste faire une distinction, quand tu fais une installation interactive de ce type-là, quelle porte l'installation qui, bon, il y a un public qui va l'utiliser, tu peux jamais supposer ce que le public va faire dedans. C'est pour ça qu'il y a des périodes de... Ben, que ce soit stupidité ou pas, parce que là, tu dis, ben, c'est stupide pour toi que la personne enlève les prises de courant, mais quelqu'un qui est à l'intérieur, lui, il ne sait pas si c'est une prise de courant qui. Parce que toi, tu as une information, tu as accès à une information que la personne, elle a pas. Moi, je me souviens, jadis, quand j'étudiais en médias interactifs, elle n'est pas étudiée là-dedans.
dans un éditeur média interactif, il fallait tester les installations parce que les gens ne savaient, on ne pouvait pas supposer que les gens allaient faire des trucs ou autre chose. C'est fallait tester au final. Ouais.
Mais c'est le fun parce qu'il y a des caméras. Alors, exemple, le monde te voit, c'est que tu as toujours comme ce qu'on appelle un game master là, qui est mm-hmm. là, qui peut te voir. Et tu as toujours la télé qu'à chaque 5 minutes, échoué, ça fait comme un petit bip, puis un moment donné, ça vient comme agressant.
Moi, je suis stressé.
Parce que là, à la fin, on regardait les minutes, puis on était tout. Mais là, il faut se dépêcher, il faut faire quoi. Mais là, qu'est-ce que tu penses? C'est que on communiquait bien quand même ensemble, okay. les quatre. C'est que ça a bien à donner. Puis c'est le fun. Je vais juste donner une anecdote un peu ridicule, mais c'est pas un spoiler vraiment de la chambre. Un moment donné, je trouve de quoi qui affecte un peu la chambre. Puis tu vois, ma conjointe puis ma sœur pensaient que ça faisait partie du jeu, mais c'était moi, genre. Puis quand ils ont su que c'était moi, ils étaient « Mais là, tu t'es arrêté de faire ça! » Je suis allé après, j'ai dit « Wow, on se calme, là. » C'est que tu sais, ça met de la tension.
Je te reconnais, toi.
Ouais, faut que tu sois avec du monde, tu sais, quand même, que tu sais que... Pas personne de trop susceptible non plus, parce qu'à un moment donné, si mettons tout est assis, je dis, mais là, Ben, tu participes pas, c'est juste moi qui cherche. Moi, c'est long, j'aime
mais
pas
moi,
ça.
C'est ça.
Faut y aller
ça,
du monde que ça leur tente d'y aller.
Ben, on va y retourner.
Je vous le conseille. Moi, je ferais laisser là me noter.
On va le faire. Ben oui, on va l'essayer.
Honnêtement, là,
donc, Guy Allard qui
nous. Sur Internet, puis il y a une page Facebook.
Oui, une page Facebook. Guy Allard, on va y aller, là, puis on va. J'aimerais ça le filmer, mais si on filme, on brise le truc.
Ça, tu peux pas filmer.
C'est dommage.
À moins que tu te mettes une caméra frontale.
Ouais.
Une genre de GoPro, on en fait la même.
Mais je veux pas briser le punch.
Tu peux pas le montrer après.
Non,
parce que ce qui arrive, c'est que les gens vont savoir quoi faire.
Ah oui, puis je pense qu'ils seraient pas contents, eux autres non plus.
Non,
non. Parce que c'est de la propriété intellectuelle.
Puis c'est compliqué de rechanger ces affaires-là parce que c'est quand tu montes un truc, tu veux le garder pour longtemps, tu veux le faire fructifier un peu.
Je peux-tu me permettre un truc parce que je voyais un échange sur le chat.
Oui, vas-y, mon
vieux. J'avais vraiment envie de réagir à ça parce que c'est un genre de critique que je lis souvent, que ce soit ici ou ailleurs. Puis ça me fait tout le temps rigoler parce que les gens font une espèce de distinction. Puis je la comprends pas, moi, cette distinction-là.
Okay, à quel sujet?
Je pense que c'est à cause qu'on parlait d'X-Files, mais les gens disent à un moment donné, il faut que tu apprécies pour apprécier, puis il faut arrêter de critiquer. Moi, je vais vous apporter ceci. La critique, c'est ton appréciation ou ta non-appréciation. Distiller, expliquer. C'est la même affaire. Il n'y a personne qui s'assied en avant d'un film en se disant je vais faire la critique ou moi, je vais regarder ce jeu-là et je vais faire la critique. C'est la même chose. Un bon critique va vivre l'expérience qu'il a à vivre, que ce soit un film, un livre, n'importe quel produit culturel, et après, il va expliquer son appréciation selon ce qu'il pense être des standards. Après, ça, c'est discutable, mais reste que il n'y a personne qui est là et fait comme critique! Critique! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je trouvais que c'était important de faire la distinction parce que quand on moindrement qu'on jase ici, on se dit ah ben là, il faut apprécier parce que. Non, non. La critique et l'appréciation ou la non-appréciation expliquée. That's it. C'est aussi simple que ça. Je trouvais ça important de faire la distinction.
C'est très, 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 très personnel.
Oui.
Pas à cause que moi, j'aime pas un jeu que toi, tu l'aimeras pas ou que toi, t'aimes un jeu que moi, je vais l'aimer.
C'est un peu à les gens, tu sais, comme on le disait souvent à M. Ouais. Net, puis encore plus ici, parce qu'on a la chance d'élaborer encore plus, on a plus de temps. Tu sais, à un moment donné, tu t'identifies à une personne qui aime un style de jeu.
Voilà.
Puis je fais le parallèle avec Denis qui me niaise avec les jeux de course. J'ai jamais fait de critique de jeux de course à M. Net. Pourquoi? Parce que j'ai pas le point de comparaison avec les 150 autres jeux de course qui sont sortis avant et ceux qui sont sortis que j'ai pas joué ou je sais même pas qui existent. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais une critique,
un peu comme moi
c'est personnel.
Avec Dota, ces affaires-là.
Mais c'est ça,
pas
ou avec Final Fantasy.
J'ai vraiment
des personnes qui viennent de me voir et qui me disent hey, j'ai commencé à jouer, exemple, à la série Souls à cause de toi, merci. Mm-hmm. C'est cool parce que j'ai pu leur transmettre la passion que j'ai pour cette série-là. Mm-hmm. Est-ce que j'ai un esprit comme un peu, tu sais, comme vendu ou ainsi de suite, trop sévère, peut-être. Mais je veux dire, si on parle avec Denis qui dit qu'il n'est pas capable de finir le tutoriel, tu sais, du troisième.
Ça m'intéresse pas,
puis
tu vois,
moi,
j'ai pas d'intérêt.
Le tutoriel, je l'ai fait en 10 minutes.
Ouais.
C'est pas une question de genre que Denis il est pas bon, puis moi je suis meilleur, ainsi de suite. C'est le degré aussi
d'intérêt
que tu as à consacrer à un niveau comme ça.
À l'époque de Ebert, quand Ebert était avec son autre co-animateur, ben moi je me suis
Cisco.
Plus. Cisco était décédé déjà, mais
okay.
Il était avec le deuxième, celui qui l'a remplacé. Puis même Ebert est décédé aujourd'hui, mais moi je me fie souvent l'opinion de Ebert parce que ça reflétait beaucoup la mienne. Mais c'était pas vraiment le point que je veux faire. Puis de toute évidence, les gens, une personne en fait sur le chat n'a pas compris du tout. Là. C'est que si tu as apprécié un film, tu te dis, hey, moi je suis allé voir un film. Yann et moi, on va voir, mettons, Captain America Civil War. Puis on a envie d'y aller juste pour le plaisir d'y aller et on a aimé ça. Si t'es pas capable de l'expliquer après, en faire une critique, qu'il faut pas te confondre avec le mot critiquer. Ben, il y a un problème. Je veux dire, si t'es pas capable d'expliquer pourquoi t'as aimé ou t'as pas aimé ça, c'est. quelque chose qui ne marche pas. Là. Il faut faire la distinction. Ça me fascine à quel point ce raccourci d'esprit-là est très, 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 très
bien. D'ailleurs,
bon, on en parlait excuse-moi.
Quand je vous ai engagé à M. Net, c'est la première chose que je vous ai dit. Si tu n'aimes pas quelque chose, il faut que tu sois en mesure de me dire pourquoi. Exact. Même chose si tu aimes quelque chose.
Oui, après,
pourquoi
les gens peuvent ne pas être d'accord. Ouais,
effectivement.
Mais c'est l'idée que. L'acte de faire une critique et de se mettre dans une position de supériorité et d'analyse constante. Moi, au contraire, quand je veux bien critiquer quelque chose, mes meilleures critiques, c'est quand j'étais capable le plus de décrocher de mon appréciation, de me mettre dans une position où je reçois et après, j'observe en moi ce qui marche ou qui ne marche pas. Après, ça, c'est complètement arbitraire, mais ma critique va découler du fait que j'ai passé du bon temps ou pas du bon temps. T'sais. C'est pas forcément le côté checklist intello que le monde y accorde. Ça fonctionne pas comme ça.
C'est viscéral.
C'est super. C'est juste
on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Denis dit non, on parlait pas de ça parce qu'en cas que ça vienne en onde. Puis on dit,
non, je voulais que tu en parles en onde.
Moi, je dis ce que je suis capable d'entendre.
Oui.
C'est sur les remakes. J'étais le premier des fois à me plaindre là-dessus. Sur les remakes de notre jeunesse. Là, il y a Ghostbusters qui s'en vient. Pas Ghostbusters 3, pas de New Ghostbusters, pas de Female Ghostbusters. Ça s'appelle Ghostbusters. Comme le film de 84. C'est que là, maintenant, quand tu vas aller sur IMDb, tu vas avoir Ghostbusters 1984, puis tu vas avoir Ghostbusters 2016. Faut vivre avec. Ouais. Là, ce que je suis plus capable d'entendre, c'est les critiques automatiques de... Même il y en a qui se défendent avec ça en disant « Mais je critique pas parce que c'est des filles, je critique parce qu'ils ruinent ma jeunesse. » Mais c'est parce que tu l'as même pas vu. Un, t'as pas vu le film encore.
Pas vu le film pendant.
T'as le droit de dire « Moi, je choisis consciemment de pas aller voir le film. Je veux pas donner mon argent à ça parce que moi, j'aurais préféré avoir Ghostbusters 3, exemple.
Mm-hmm. » T'as le droit.
T'as le droit. Mais ça fait pas que le film est automatiquement plate parce que toi, tu juges qu'il ruine ta vie. Puis ça revient avec le point thème que j'ai. Puis quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai texté, on a niaisé sur Twitter avec Voltron. Mm-hmm. J'ai niaisé Benoît Mercier. Puis je disais, hey, tu viens de chez nous, on va faire du binge-watching Voltron. Puis niaiser avec Netflix and Chill. Puis on se technique. Peut-être que ça va être plate, Voltron, je ne sais pas. Non. Mais moi, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Puis je suis prête à y donner une chance.
Ouais.
Est-ce que j'ai aimé le film G.I. Joe? Non. Est-ce que ça avait rapport avec les cartoons que j'écoutais dans les années 80?
Non,
pas
zéro, puis une barre. Mais. Est-ce que j'ai été voir G.I. Joe au cinéma? Non. J'ai entendu qu'il sorte en DVD parce que j'avais... Ouais. Mais j'ai pas commencé à dire à tout le monde
ça
c'est poche,
mauvais.
C'est mauvais. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Cobra Commander puis Destro, il est poche. Non. Tu sais, il y a une limite. Et là, maintenant, on dirait qu'à chaque fois qu'on est passionné de quelque chose, et je me souviens d'un Comic-Con, j'étais avec toi, avec les gars qui font du cosplay de Ghostbusters. Oublie ça, là. Eux autres, ils étaient plus que fermés, même à l'idée qu'on touche à Ghostbusters.
Ouais,
mais la
savoir.
Licence t'appartient pas. Mais... C'est ça qui est... Moi, un moment donné, je trouve que ça dérape, comme Benoît il dit. Il y a une différence d'aimer quelque chose, t'as le droit, de sentir un sentiment d'appartenance à quelque chose qui a marqué ta jeunesse, t'as le droit aussi.
Absolument.
Je veux dire, la bande dessinée Ghostbusters, c'était pas super bon non plus. Puis c'était pas la voix... C'était surprise à tout le monde, spoilers. C'est pas Bill Murray qui faisait la voix du personnage dans la bande dessinée de Ghostbusters.
C'était même pas
là.
Ernie Hudson, puis Ernie Hudson avait demandé de faire la voix de son personnage, puis
il
avait
pas
voulu qu'il fasse son personnage.
Tu sais, je veux dire, c'est comme un moment donné, je me dis, faut faire attention avec ça, parce que c'est là qu'on dérape. C'est là, comme tu dis, de faire... Si tu veux faire une critique de Ghostbusters, fais-en une, mais attends d'aller voir le film avant de le faire.
Moi, ça me fascine parce que jamais autant on a été... Puis, check bien ça. J'avais fait une critique à un moment donné, c'est à l'époque justement de
Monsieur Net.
Mm-hmm. J'avais écrit un article. Le titre était... peut-être pas provocateur, mais je pense qu'il voulait illustrer ma pensée. Ça disait « Non, Michael Bay n'a pas volé ton enfance. » Et dedans, ce que j'expliquais, que le fameux Ninja Turtle qui est sorti, que je n'ai pas aimé par là-dessus. J'ai pas trouvé que c'était un bon film.
J'ai trouvé ça meilleur que je pensais parce que j'étais biaisé au début.
Ouais, ben, mais je veux pas le m'éloigner du point. Le point étant que personne n'avait vu le film et tout le monde l'avait condamné encore.
Ouais.
Et j'ai expliqué que les vrais Ninja Turtles, ça n'existe pas. Les vrais Ninja Turtles, c'était en noir et blanc d'un comic qui a été auto-publié dans les années 80. C'était très gros, c'était presque grossier. Puis Shredder, il meurt dans le premier comic. Les vrais Turtles, ils n'existent pas. Après, il y a eu le dessin animé des années 80, celui des années 2000.
Les films,
ça a été adapté en vraie personne aussi, en télésérie. Oui, il y a une télésérie des Ninja Turtles. Et là, on veut bien y mettre... C'est presque religieux rendu là, tu sais. Ah, ben, ça sera pas bon, parce que c'est pas pareil comme l'original. Mais d'un, l'original, il n'existe pas. Il y a une originale, puis celui en noir et blanc dans la BD. Fait qu'en partant, tout ce qui découle, c'est une adaptation. Celui des années 80 que tout le monde chérit, c'est une adaptation. De deux, et ça, c'est super important, autant que la bande-annonce a de l'air dégueulasse, même si tu as l'impression que c'est la pire affaire au monde, tu n'as pas vu le film. Et là, voici la distinction super importante à faire, Denis. Je suis pas en train de dire qu'il faut enlever le dogme de « ça va être mauvais » par le dogme « ça va être assurément bon ». Et c'est là où le monde se trompe. Ce qu'il faut faire, c'est « je l'ai pas vu ». Tu sais, le shot de Schrödinger, là, quand tu regardes,
ouais, ouais.
Faut que tu attendes de l'avoir vu. Après, est-ce que tu peux dire « j'ai vu une bonne annonce puis j'ai pas un bon pressentiment à cause du montage ?» Absolument. Mais ce qui est dommage, c'est quand
j'aime
ce pressentiment-là...
De... Tu sais, des choses comme ça.
Whatever. Ce qui est dommage, c'est quand ce pressentiment-là devient cimenté dans une appréciation ou une impression que tu as déjà vu le film. Et c'est là que je trouve que c'est dangereux. Parce que ce type de pensée-là, c'est comme ça pour les bandes-annonces de films, mais c'est là pour plein d'autres affaires. Et ça me fascine. Et les gens vont tenir mordicus à même pas laisser la porte ouverte. Moi, je l'ai vu le premier de Ghostbusters, je sais pas quoi en penser, mais je suis curieux. C'est quelqu'un qui fait le choix de pas y aller, good, je peux comprendre, mais de dire que c'est mauvais, que c'est assurément mauvais,
attendez,
t'en as aucune idée.
Film.
La bande-annonce du film Drive, qui est un excellent film avec Ryan Gosling, était présentée comme un Fast and the Furious.
Ouais.
Le film, ce n'est pas ça, c'est un film noir, c'est même du électro-noir. C'est un excellent film, mais la bande-annonce présageait quelque chose de totalement différent. Guillermo del Toro, un gars qui a la main longue à Hollywood, lui-même ne maîtrise pas le montage de ses propres bandes-annonces.
Mais ça, tu nous en parles souvent. C'est pas lui qui fait les teasers.
Et comme
c'est
la plupart des gens qui font leurs films. Fait qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'on base une certaine opinion. Appréhension, c'est normal. Mais attention, ce n'est pas de la science. Et j'espère que le monde ils vont comprendre la différence. Moi, je trouve ça super important parce que ça se reflète pour plein d'autres trucs. Là, on parle de films, mais c'est en politique, c'est en truc social. C'est qu'à un moment donné, tu ne sais pas. Il faut que tu acceptes de ne pas savoir.
Puis maintenant, je suis d'accord avec toi, parce que maintenant, en plus, dans les médias que nous, on consomme beaucoup, les jeux vidéo, les bandes-annonces, puis les annonces de bandes-annonces deviennent super importantes. T'sais, l'univers de Marvel est vraiment l'exemple parfait. T'as un teaser du trailer qui va sortir dans un mois. Là, après ça, t'as Jimmy Kimmel, t'as Jimmy Fallon, qu'il y a du monde qui vont aller déposer. Tu sais, c'est maintenant, annoncer une bande-annonce, c'est presque un événement, presque aussi gros que le lancement du film.
Parce que avant, si je payais mon spot publicitaire, puis Denis va pouvoir nous le confirmer, quand t'avais un spot publicitaire à telle heure, tu savais que telle personne allait le voir. Tu mettais le gros prix, tu payais pour être là, puis tu savais que, mettons, tant de personnes l'avaient vu.
2 millions de personnes vont être là pour l'avoir.
Aujourd'hui, moi, quand je suis sur mon ordi, des fois, Yann, il est en ligne, des fois, il n'est pas en ligne. Alors, le fait qu'ils font des annonces d'annonces puis qu'il y a plusieurs trucs, c'est qu'ils vont, c'est littéralement l'équivalent d'un shotgun avec des billes. C'est pour pogner le plus de monde possible.
C'est dans le top.
C'est plac! Parce que là, tu dis, ben, si j'ai fait ça, au final, je vais avoir ce truc-là.
Mais comme j'ai su que le prochain film de Transformers va s'appeler The Last Night, parce que quelqu'un a copié ça sur Twitter, que l'Instagram, ils ont annoncé ça, genre sur Instagram. OK, c'est cool. T'sais, ils ont étudié les réseaux sociaux pour qu'on parle de Transformers aujourd'hui ou hier. Mm-hmm. Mais je suis d'accord tellement... Puis c'est rare qu'on va dire ça parce qu'on aime ça se niaiser, mais je suis tellement d'accord avec toi qu'il y a une différence que c'est pas parce qu'on dit... C'est pas, on vous dit pas, soyez positif, ça va peut-être être bon. C'est pas ça le but. Le but, c'est avant de tomber dans un mode de négativité intense, tu l'as pas vu. Dis pas que c'est de la merde.
C'est ça.
C'est comme un enfant, tu lui dis, gars, mange tes légumes. C'est quoi? C'est du brocoli.
C'est pas bon.
C'est vert, c'est pas bon. Mais non, tu le sais pas, tu vas peut-être aimer ça, mais si tu y goûtes pas, tu le sauras jamais.
Je pense que ça fait le tour, les boys.
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup, les boys, de ces précisions. D'autre part, il y a Supergirl qui s'en vient, cher ami.
Supergirl qui a été renouvelée pour une deuxième saison. La première saison était diffusée sur CBS. Maintenant,
ça revient.
On a appris que ça revenait non seulement à la télévision, mais sur la chaîne de CW, qui est une chaîne américaine sur laquelle on a déjà Arrow, The Flash et Legend of Tomorrow, qui sont trois séries adaptées de propriété intellectuelle de DC Comics. Supergirl, c'est l'équivalent également. Yann a comme une deuxième partie à la nouvelle, parce que c'est bon pour les fans. Il y a des gens qui vont perdre probablement Calista Flockhart, qui était sur la série, parce que la production va être déménagée à Vancouver. Mais pour les fans de télésérie, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, parce que c'est le même producteur qui s'occupe de Flash, de Arrow, puis de Supergirl, qui est Greg Berlanti, je veux pas massacrer son nom, mais je pense qu'il va me... s'il m'entend, il va me pardonner, j'en suis sûr. Vu que c'est son univers à lui, cette saison-ci, c'est une des premières fois qu'on voyait ça. Flash, le personnage de Barry Allen, a fait un crossover dans un épisode de Supergirl à CBS parce que le, ce qu'on appelle du. Ce que tu parlais, là, du, un showrunner, avait le contrôle des deux émissions. Et là, maintenant, vu que Supergirl traverse maintenant de CW, et même pendant cet épisode-là, Callista Flockhart faisait des jokes sur la chaîne CW.
Ah ouais?
Ouais, ouais, dans cet épisode-là, c'est les deux seuls épisodes de Supergirl que j'ai vu, c'est le pilot, l'original, tu sais, la première épisode. Et celui-là avec Flash, parce que j'écoute Flash. Et là, maintenant, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en décembre 2016, vu que les quatre émissions vont être sur la même chaîne, il va y avoir un méga crossover, quatre jours de suite, donc quatre heures. C'est que ça te fait presque un film. Tu vas avoir Arrow, Flash, Supergirl, puis Legends of Tomorrow, qui va faire un méga crossover. Ça va être une des premières fois dans l'industrie de la télévision où ça va faire ça.
Penses-tu que ça va donner naissance à un film éventuellement?
Mais pas nécessairement un film, parce que DC, comme Benoît l'avait déjà mentionné, gère vraiment son univers télévisuel et cinématographique différent. Parce qu'il va avoir un Barry Allen Flash au cinéma, mais ça ne sera pas Grant Gustin qui joue à la télévision.
Exactement. Ils ont décidé de développer leur truc séparément, probablement pour aller plus rapidement, tandis que Marvel avait les reins solides, parce que ça fait longtemps qu'ils construisaient ça, pour unifier le tout. La série Netflix de Daredevil, Jessica Jones, fait partie aussi de l'univers cinématographique des Avengers et vice-versa, tandis qu'en ce moment, tout ce qui est développé au cinéma ne fait pas partie de l'univers cinématographique.
Mais ça semble intéressant, cette petite série.
D'après moi, écoutez, Supergirl va sûrement tomber soit sur Netflix, Show Me, ou...
Je le souhaite.
Inquiétez-vous pas, sûrement que ça... Puis de toute façon, Flash et Arrow jouent déjà sur CTV. Je ne vois pas vraiment la différence. L'année prochaine, ça va tout jouer quand même à CTV.
Au Canada,
là,
j'espère.
Global, un des deux, je ne me souviens pas, au Canada. Sinon... Mais pour les fans de Super-Hero, je trouve que c'est... Moi, à date, c'est le genre d'univers que j'aime parce que c'est tiré, c'est un petit peu plus réaliste que ce qu'on voit au cinéma. On s'entend que ça, on parle de Flash, un gars qui court vite là, quand je parle de réaliste. Mais ça, j'aime le mix d'action et humour qu'on retrouve dans ces émissions.
Un peu comme Marvel.
Dit-il en sirotant ça simplement. Yann, quand tu es arrivé ici tantôt, tu me dis hey, je veux absolument voir Doom, ce que ça a l'air. Absolument. On va aller faire un playtest après, tantôt. Et voici un avant-goût, justement, de ce fameux Doom. Tu me demandais s'il était beau, le jeu. Oui, il est beau. Est-ce que le jeu est rapide? Oui, c'est quelque chose d'assez rapide, d'un jeu qui pourrait se ramasser facilement, sauf quand il load est un petit peu plus long, mais un jeu qui pourrait facilement se ramasser en e-sports éventuellement, parce que tu vas voir que la gâchette puis tout ça,
c'est
ça
parce dans le temps, le multijoueur, Quake, Doom, là, c'était rapide en tabarnouche.
C'est la même chose, mon vieux. Je vais faire un petit playtest tantôt, vous montrer ce que ça a l'air, et puis, on est prêt à partir, on pèse sur le X, boom, et hier, j'ai joué un petit peu, là, je ne vais pas faire de spoilers, si vous n'êtes pas rendu là, c'est sûr que je ne le ferai pas. Mettez un peu de volume, ça va aller mieux. Et voilà. La musique, le stress qu'on connaissait à l'époque est encore là. Oups, tu vois, il faut que je fasse attention ici. Ça semble être un passage assez délicat.
Est-ce qu'on fait allusion aux autres ou c'est comme vraiment, tiens, t'es un Marine, t'es sur Mars, il y a une autre dimension, puis let's go.
Let's go. Exactement. Okay. Tu viens de résumer l'histoire. Okay. C'est pas compliqué. Et là, il y a toutes sortes de créatures qui sont là, qui tentent...
Tu ramasses encore ça, c'est pour ta... J'en déduis que c'est pour ton armure, c'est des petites charmes pour ton armure.
C'est ça. Puis t'as quand même beaucoup d'armes qui sont disponibles. Puis quand le temps arrête, je m'en fais tirer par quoi?
Tu as trouvé le BFG, non?
Oui, le Big Gun, je l'ai, le Big F-Gun. Encore ces créatures-là qui sont là, qui sont très, très vindicatrices, encore une fois, boom.
Il est très beau.
Oui, il est très joli. Puis,
il
y en a un partout, là. Puis là, j'ai mes bottes à double jump aussi, à double saut.
Oh, ben, il y a du monde partout.
Oui, boom. Et là, tu ramasses. Quand tu entends le bip-bip, ça veut dire que ça va pas bien. Tu peux... quand on va tirer à terre. Là, je joue de côté, c'est un petit peu difficile. Mais je vais mourir, je vous avertis tout de suite.
On va changer.
Je sais, je suis capable, mais c'est pas ça, c'est que le temps.
Ok, quand tu changes d'arme, ça ralentit le temps.
Exactement. Bon, j'ai pogné un jump. Boum. En même temps, ça m'a sauvé la vie. Et t'as les armes avec double gâchette, tu vois, je peux lancer des roquettes. Puis eux autres aussi. beau petit jeu, bien le fun, rapide. On peut jouer en coop. C'est assez gros comme jeu, par exemple, à télécharger. C'est le temps de jouer ce soir, commencer à le téléchargement.
Ça t'a pris combien de temps de télécharger?
Ça m'a pris, c'est 30 gigs. Hein? J'ai pas calculé le temps. J'ai demandé, je l'ai oublié. C'est le lendemain que j'ai joué seulement.
Tu l'as peut-être mentionné, Denis, mais est-ce que c'est juste des arènes ou c'est vraiment des tableaux que tu peux passer au
non, travers? Non, ça, c'est un tableau qui est proposé. Quand la fameuse, je tiens ça. C'est un peu violent. Si vous n'aimez pas l'hémoglobine, c'est pas votre jeu.
C'est 10 ans et moins,
là. Ouais, c'est ça. Donc, attends un peu. Elle est plus dure à tuer un peu. Fait qu'on va s'en aller ici. Elle va monter sûrement. Oui, et voilà. Ah oui, oui, oui.
Oh boy.
Non, j'ai plus de gaz. J'ai plus de gaz. Fait que je vais lancer une petite grenade. Je vais prendre mon shotgun. Viens, Tamino. T'es là, toi, là. Boum. Attends, t'aimes pas ça, hein?
Ben, on joue pas ça... à ça avant d'aller se coucher. Hein.
Oh, tu peux jouer si tu veux, mais tu vas mal dormir. Ouais. Et voilà, là, j'ai pété aux frettes. Donc, intéressant, les effets sont le fun. Et en ligne, les niveaux sont intéressants aussi. Il y en a plusieurs qui ont été conçus par des usagers. Donc, ça donne une autre dimension. Très beau petit jeu. On fait un playtest ce soir, juste après ce show-là. Et je viens d'avoir des demandes de d'amitié en passant. Parle-moi un peu des nouvelles règles de League of Legends. Qu'est-ce qui arrive avec ça, Yann?
Ben oui, League of Legends, pour ceux qui sont habitués dans les MOBA, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est un des gros problèmes, c'est quand on attend, mettons, 2-3 minutes pour jouer une partie.
Ouais.
Ça load, il y a 5 personnes d'un bord, 5 de l'autre. Puis il y en a un qui quitte.
Tout le temps.
Qui fait juste, qui arrête de jouer ou qui se fait déconnecter. C'est que là, on se ramasse du ce qu'on appelle du 4 contre 5. Quand c'est au début d'une partie, exemple, je donne l'exemple de Dota, en dedans de 5 minutes, s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle de First Blood, ça veut dire un héros qui meurt, le jeu compte pas et tout le monde quitte. C'est la même chose pour League of Legends. Et là, maintenant, ce qu'ils vont faire dans un des mises à jour, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'après 90 secondes et 3 minutes, il y en a qui peuvent comme voter pour dire genre, OK, on abandonne, tu sais, ou j'abandonne le jeu, je le prends comme une défaite, parce que de toute façon, 4 contre 5. Des fois, tu peux gagner quand même, parce qu'exemple, dans Dota, ce qui arrive, c'est que vu qu'il manque un personnage, tu vas avoir plus d'argent puis plus d'expérience qui va arriver plus vite. C'est que des fois, tu peux réussir à gagner du 4 contre 5. Dans League of Legends, ce qu'ils vont faire dans la nouvelle mise à jour, c'est qu'on va pouvoir demander pour un backslash remake. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de First Blood, ça va prendre entre 2 et 4 joueurs qui votent pour le remake. Ça veut dire que ton équipe complète qui vient de perdre d'un joueur peut voter pour le remake et le jeu, la partie va arrêter complètement.
Donc c'est sérieux, le jeu-là, les gens...
Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui perdent, comme je te dis. Tu perds, tu gagnes, tu montes dans le classement. Tu perds, tu descends. C'est que c'est super plate de commencer une partie et là, quelqu'un, genre, ah ben là, excusez, ça sonne à la porte, ou il faut que je parte, puis il s'en va. Moi, le nombre de fois, le nombre de parties que j'ai jouées, où après, comme 10 minutes, il y a quelqu'un qui dit, ah ben là, il faut que j'aille travailler, puis t'es là, mais man, pourquoi tu t'es parti une partie de Dota si t'avais juste 10 minutes pour jouer?
J'aimerais ça,
ah, ben, ça dérange pas. Hein? Une partie, c'est normalement en moyenne entre 25 minutes et une demi-heure.
Ouais.
J'ai joué des parties qui ont dépassé une heure.
Ouais.
J'en ai joué qui ont duré 20 minutes. Mais normalement, c'est une demi-heure. À peu près une bonne partie, une demi-heure, 40 minutes. Là, si
j'aimerais ça être un petit niveau. Oiseau et t'entendre passer des commentaires.
Ah, des fois, je suis gentil. Des fois, je suis un peu moins gentil.
Je me demande pourquoi. Hey, ça fait pas mal le tour, messieurs. À moins que tu aies d'autres choses à rajouter, monsieur Mercier.
Non.
Non?
Non.
Un beau chandail, on peut se procurer ça où, ces beaux chandails?
C'est mon t-shirt des mystérieux. C'est, en fait, pour l'instant, nulle part. Les gens qui ont contribué à la campagne Indiegogo vont recevoir le leur bientôt. On a fait la commande cette semaine. C'est 100% canadien. Donc,
ah,
il
n'y
a pas d'exploitation là-dedans. Puis, prochainement, au Comic-Con de Montréal, on va le vendre à notre table. Mais je ne me plaçais pas de même pour le vendre. Je me place tout le temps de même, Denis, je te jure.
On va-tu pouvoir du souper encore ensemble au Comic-Con à ta table?
Ben oui.
Avec un t-shirt en vente au Comic-Con de Montréal.
Merci beaucoup. Monsieur, vous avez d'autres choses à rajouter?
Non. Juste, écoutez, une activité cet été avec des amis. Allez chez Obsidem, vous allez capoter.
Très cool. Merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'émission ce soir. Désolé pour d'avoir pété un gasket, mais à un moment donné, c'était trop et j'ai fallu que je mette les pendules à l'heure. J'ai rien contre la personne en question. C'est juste que, à un moment donné, protège ma gang. Comprenez ça. Vous faites partie de ma gang aussi. Si quelqu'un se faisait écœurer dans ma gang, je mettrais mon pied à terre. C'est ce que j'ai fait ce soir. Désolé si ça a frustré des gens, mais à un moment donné, on goûte aussi à sa médecine.
C'est pour ça que je te donne l'argent de protection.
C'est ça, effectivement. Merci beaucoup. Un gros merci à Cerber qui nous a fait des dons ce soir. CC6 Megadeth également qui a participé à l'émission. Brad qui est toujours là et tous les modérateurs, modératrices ainsi qu'à vous qui nous écoutez de soir en soir. Gênez-vous pas. Parlez-en sur les médias sociaux. On veut que vous soyez là comme ça pour nous écouter et nous appuyer dans notre démarche de façon régulière. Ici Denis Talbot, restez là. Le playtest de Doom s'en vient dans quelques instants. Le temps de leur conduire, ces messieurs, à moins que vous désiriez rester, cher ami.
Je travaille demain matin.
Ah, je le savais, je m'y attendais. Salut tout le monde. On se retrouve mardi pour une autre édition de Radio Talbot. Salut bien.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services. Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com